le premier ministre, notre premier ministre, François Legault, s'était fait hacker. Il avait eu accès, peu importe l'histoire, c'est qu'il avait eu accès à ses données permis de conduire, assurance maladie. Okay. Tu comment ça valait sur le dark web pour le prime minister, premier ministre du Québec?
Laisse-moi guesser. Puis là, j'ai le price en bitcoin ou en CAD?
En cash. CAD.
En CAD? 1 million.
35$.
Hey, gros, c'est sûr que c'est le clip.
Fait que ça valait 35$ avoir accès au papier du PM. On est le road des samedis soir, ne clenchant pas les souris. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Ils ont un coup, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir.
What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. Abonnez-vous et laissez-nous un review sur Spotify, Apple Podcasts, sur votre plateforme préférée. Ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Assurez-vous aussi que votre SaaS est listé sur saaspasse.com, bouton mauve, ajoutez votre SaaS. Il y a déjà au-dessus de 260 compagnies. Si vous cherchez un employé ou un emploi en SaaS au Québec, allez sur saaspasse.com/emploi avec un S, notre job board. Le prochain événement Ça se passe aura lieu en avril à Montréal, très probablement le jeudi 18 avril. Détails et billets à venir sur Eventbrite, bannière de notre site et en show notes. La première retraite privée pour fondateurs Ça se passe s'en vient tranquillement en avril. On est pas mal full pour celle-ci, mais si vous voulez soumettre votre candidature pour la prochaine, allez sur saaspasse.com/retraite avec un S ou écrivez-nous sur LinkedIn ou à bonjourhi@saaspasse.com. On vous enverra le formulaire et détails. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Maxime Trottier, VP Vente et Marketing chez Devolution, une suite de solutions de productivité et de sécurité pour professionnels TI. On discute de la longévité de Devolution qui a dépassé la décennie, puis des changements organisationnels, culturels, d'acquisition qui viennent avec ça. Devolution aujourd'hui, c'est 12 500 clients dans 140 pays, 206 employés à Lavaltrie, 40% de croissance year over year, puis tout ça bootstrap. Fait que si vous m'avez entendu parler d'entreprise indestructible avec Georges Saad sur l'épisode 47, vous allez en avoir un bel exemple ici. Moi, je geek out marketing à mort avec Max. C'est vraiment mon genre d'expert préféré. Humble, éternel étudiant, un bon vulgarisateur. Eux, c'était des early adopters du inbound marketing. Puis moi, de voir une strat du genre, même une carrière du genre, scaler à travers 14 ans, comme ça me fascine. Ah, puis je demande à Max, what the fuck is up, avec le fait de partager leur roadmap publiquement. All right, on passe au show, let's go! Maxime Trottier, bienvenue sur Ça se passe.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ouais, ça va, on s'est rendu... un peu avec la misère, un petit gars de campagne, nous autres, la Rive-Nord de Montréal, je te disais ça tantôt. Là. On vient pas en ville souvent, là, mais ça nous fait plaisir d'être là. Je suis vraiment excité d'être là aujourd'hui, en fait. Merci pour l'invitation.
Moi tout, man, je suis content que tu sois là, puis je commence tout le temps le pod avec comment qu'on se connaît.
Ouais.
Dans notre cas, je t'ai rencontré de façon asymétrique ou parasociale en t'écoutant sur le pod de notre ami commun, Jonathan Léveillé,
ouais.
Pivot, Jonathan d'Open Mind Technologies. Tu as droppé beaucoup de knowledge sur ce pod-là. Moi, j'étais un fan. J'ai dit à Joe, lui est sharp dude, peux-tu m'intro? Il dit, tu devrais l'avoir aussi sur le pod, blablabla. Fait que here we are, puis je suis bien content.
Bien excité d'être là, puis je salue Joe en passant, hein, avec qui je travaille depuis un bout maintenant sur Pivot Podcast avec lui. Puis bien intéressant d'échanger avec lui là-bas. Puis,
ouais, il est smart dude.
Ah, il est smart, il était chic type, tout le temps eu bien du plaisir avec. Fait que,
c'est
il, vrai. Il se posait de m'emmener en skidoo dernièrement, en fait. Là, je lance la perche, là, s'il était encore prêt, malgré qu'on n'a pas une grosse hiver. Là,
All right, fait que je demande tout le temps aux guests de faire un petit peu un récapitulatif grossier de leur carrière, qu'est-ce qui les a amenés ici.
Ouais. Ben écoute, moi j'ai un bac technique administrative au Cégep de Joliette, bac en administration des affaires, marketing à l'UQTR à Trois-Rivières, puis ensuite j'ai travaillé un peu partout, je suis québécois, Rona, ensuite je suis retourné dans mon coin de pays, dans le coin de la Valtrie, l'Assomption, travaillais dans un organisme qui existe encore aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, mais le Carrefour Jeunesse Emploi.
Okay.
Montait des plans d'affaires là-bas, on trouvait du financement pour des petites business, puis il y avait les bureaux d'Évolution, qui est une entreprise avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. Okay. Dans les mêmes bureaux, petite start-up dans le temps, on est en 2011-2012. petite start-up, 4-5 employés. Puis on a appris à se connaître. Puis ça a pris, je te dirais, 2-3 mois. Puis notre founder, David Hervieux, que je salue d'ailleurs, là, qui est notre CEO founder, est venu. On s'est rencontré un dîner. Puis on a dit, je pense que le business était rendu là, au côté marketing, vente dans ce temps-là. Puis John Dudridge. Puis ouais.
Puis toi, t'es pas. Tu sais, à la base, t'avais-tu des grosses chops ou compétences de marketing ou t'étais comme en mode. OK, je vais apprendre en même temps que l'entreprise grandit.
C'est une super bonne question. Je te dirais que oui et non. Moi, j'ai un background, un profil style, on va dire, vendeur, storytelling, messaging, positionnement, très marketing-vente. Puis dans ce temps-là, j'avais pas tant d'expérience, là, je te dirais, au niveau et marketing, vente ou en même temps dans l'industrie où on est, en technologie, ouais. En cybersécurité. C'est des industries qui sont quand même. Il y a un learning curve quand même assez à pic. Là.
Ouais, j'ai vécu avec Snip aussi.
Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Tu sais, c'est pas. Je dis souvent, si on vendait des vélos de montagne chez nous, ça serait donc plus simple parce que c'est un objet réel qui est là, tu peux toucher. Puis, donc, non, pour répondre à ta question, j'avais pas tant d'expérience là-dedans, mais grande ouverture, grande curiosité intellectuelle, vouloir apprendre, vouloir me former, très autodidacte dans la vie. Donc, je suis tombé dans une entreprise qui était, encore une fois, David, qui m'a donné pas mal carte blanche à mes débuts, de dire, voici ce que je m'attends d'un gars comme toi. On s'était déjà parlé au préalable, mais il m'a donné un livre, Inbound Marketing, des clients chez HubSpot, que tu connais sûrement. Ça
à l'époque, ça commençait.
C'était le début, puis quand j'étais engagé, on a eu la chance. Bref, Dave me donne le livre Inbound Marketing. Puis, il y avait un programme qui s'appelait Croissance Québec Techno dans le temps, qui était repris maintenant. Je pense que c'est l'école d'entrepreneurship de la Beauce qui le donne maintenant.
Ouais. Nice.
Mais c'était un programme qui était financé par le gouvernement dans le but de faire lever des startups comme la nôtre dans ce temps-là. Okay.
Ouais.
Nous, c'est les gens de chez Mario Bouchard de chez IB Wave là, qui maintenant qui a vendu, mais qui nous avait introduit à ce programme-là. Puis c'est les gens du MIT à Boston. Donc, c'était une cohorte qui montait sur une période d'un an avec 6 workshops à travers. À tous les 2 mois, on avait un workshop. On passait 2-3 jours en ville, là, à Place des Jardins, peu importe. Puis, un des grands sujets, c'était l'inbound marketing dans ce temps-là. Comme tu dis, c'était le début. Puis, on a été un peu mis dedans, je te dirais, les deux mains dedans. Fait que ça nous a kickstarté, mon gars. En 2012, c'était pas mal la grande ère du marketing numérique qui commençait vraiment à boomer les plateformes. Mmh. Tu sais, ça a bien changé, puis on va en parler tantôt, mais pour ceux qui étaient là dans ce temps-là, c'était le fun parce que un bon blog devenait viral. Là, tu sais, là, aujourd'hui, là, oh boy, faut que tu manges tes. Faut que tu sois prêt à travailler
puis,
fort. Là.
Puis moi, pour avoir entendu David, le founder, sur un autre pod, un ou deux pods facile, c'est une belle personnalité. Mm-hmm. Il semble être quand même charismatique, magnétique, no bullshit. Fait que j'imagine qu'il y a une partie de ton attirance vers Jumpic d'évolution qui était ça, peut-être, un peu?
Oui, le côté, le côté, ce qu'on appelait ambitious au MIT, justement, être humble et ambitieux, ça m'a beaucoup attiré, cet aspect-là.
Ce qui n'est pas nécessairement des opposés, ça, tu peux vivre les deux, tu sais.
Oui, tout à fait.
Bien fait, là.
Puis, tu sais, c'est une raison de notre succès, tu sais, on pourra en reparler tantôt, mais de toujours être en mesure de viser haut, là, tu sais, l'espèce de... tu le connais, le big fat hairy goal, appelé comme tu veux, l'espèce de target que tu te donnes qui est à première vue inaccessible. Ouais. Dans le temps, c'était 1 million des ARR qu'on était. Puis, là, on est rendu, tu vois, en termes de chiffre d'affaires, 40 millions l'année passée, en finissant l'année fiscale l'année passée. En termes des ARR, 31-32 millions environ.
Là-dessus, OK.
Ouais, fait que...
Puis... J'oublie tout le temps, man. D'évolution, qu'est-ce que ça mange en hiver?
C'est une très bonne question. On est une entreprise en logiciel informatique, spécialisée en sécurité informatique, cybersécurité.
Okay.
On est présent à travers 140 pays. On fait des logiciels qui servent à gérer tout ce qui est les connexions à distance, accès à distance, mot de passe, accès privilégié en entreprise.
Okay.
Donc, on a parti en 2010-12 un outil qui était très niché dans la gestion de connexions à distance que David Hervieux avait monté de son sous-sol.
Ouais, okay.
Il l'a expliqué sur les podcasts que tu as vus sûrement, mais on a passé d'une entreprise qui était très product-driven, c'est-à-dire qu'on offrait une petite solution, un produit, à offrir maintenant une solution intégrée dans l'entreprise qui couvre un paquet de use cases.
Ouais, parce que si, tu sais, en prep, je suis allé sur le website, m'a rafraîchi un peu, puis vous avez plusieurs produits comme étendards un peu là, qui
exact.
Sont disponibles pour, mettons, password management,
exact.
Remote desktop access.
Remote desktop, exact.
Fait que c'est, on est beaucoup dans l'IT, dans moderniser un peu les pratiques, s'assurer. Puis, tu sais, vos clients, c'est des gros clients, petits clients, mettons, ballpark.
Notre focus principal, c'est ce qu'on appelle le SMB, mid-market. Donc, ouais. 1000 employés et moins, 1000 à 5000 employés environ.
OK. C'est
qui est notre main focus. On dessert aussi la grande entreprise. Là.
Ouais.
On va desservir, par exemple, des départements RTI complets de la grande entreprise. Là, on parle de 50, 100 000 employés. Mais on est capable de desservir un département TI jusqu'à 2, 3, 4, 500 spécialistes en TI dans une entreprise. Okay. Donc, on parle d'une business d'au-dessus de 50 000 employés rendus ouais. là. Ça, on est capable de...
À travers le temps, vous êtes tapé toutes les SOC 2 compliance,
exactement.
GDPR.
Tout à fait. Tout à fait. On a fini. On vient de terminer. Shout-out d'ailleurs à notre équipe légale sécurité chez nous, ISO 27001.
Okay.
ISO 27701.
Ça, c'est une norme comme strict ou quelque chose de même?
Ouais, ben tu sais, ISO, ça vient du domaine manufacturier beaucoup. Là.
Ouais.
C'est des normes, en fait, de gestion d'entreprise. Fait qu'eux, ce qu'ils viennent valider, c'est voir à quel point que la gestion de tes informations confidentielles et la gestion du côté tout ce qui est privacy
ouais.
dans ton entreprise. Donc, comment tu gères, en fait, l'information que tu contiens okay. sur tes clients? Fait qu'ils viennent valider tous les concepts derrière. Puis ils viennent brander en quelque sorte ou stamper, dire « OK, les évolutions sont solides » parce c'est bon. Que tu veux avoir une crédibilité autour de la clientèle qui sont prêtes à te fournir certaines informations ouais. quand tu es SaaS, entre autres. Le ouais. SOC 2 arrive justement dans un de nos produits qui vient non seulement stamper le fait que le produit est solide, mais ce qui est intéressant derrière, c'est toute la mécanique que ça apporte.
Ouais.
Il faut que tu te step up en termes de maturité d'entreprise. Puis j'étais dans un trade show, je ne me souviens plus trop où, mais il y avait un gars à qui on jasait, il dit avez-vous des certifications? Puis on lui avait demandé c'est quoi la certification que tu aimerais avoir? Il dit c'est pas grave, montre-moi que tu en as fait une.
Okay.
Parce que ce que ça disait, entre autres, c'est si tu en as une, tu es assez sérieux, en fait, pour mettre les mains là-dedans. Ben après ça, c'est quoi exactement la certification? C'est bon pour cocher une case dans un RFP. Mais quand tu as vu, tu as fait le processus d'une certification qui est solide, là, je ne te parle pas d'un truc broche à foin. Mais
qui se remplit sur un PDF.
C'est ça, exact. Mais ça démontre une certaine maturité. Puis...
Ouais, c'est comme. Ça me bosse parce que, tu sais, nous autres, avec Snipcart, on était bootstrap, on était méga plus petits que vous autres. Là. Mm-hmm. Mais quand on s'est fait acheter par Duda, qui était desservé, c'est 1 million de sites web quand même.
Ouais.
Puis il y avait des clients qui étaient un petit peu plus mid-market, même un peu enterprise. Puis là, il y a des projets de compliance qui ont dû être mis en place pour Snipcart aussi.
Mm-hmm.
Fait que genre, OK, comment que la donnée passe, comment qu'elle est traitée, s'il y a quelqu'un qui fait une requête, il faut que ça soit flushé de la bonne manière.
Exact.
Si on fait des pen tests ou des je sais pas quoi, c'est pas moi qui s'occupais de ça, mais franchement. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme quasiment, c'est pas nécessairement le fait que t'ailles la certification, c'est le fait que tu sois allé la chercher.
C'est
comme un proof of work, comme un peu en Bitcoin, de genre, non, j'ai dépensé l'énergie et le temps pour mettre mes systèmes à un certain niveau.
Tout à fait.
Je suis sérieux à propos de ces...
Ouais.
J'aime ça. Puis là, on a mis des chiffres sur l'espèce de target d'évolution, les entreprises que vous avez aidées. Mais d'évolution, c'était game de mitrailler une couple de chiffres juste pour qu'on ait une idée du scale. Puis...
Donc, présent depuis 2010.
Okay.
Donc, ça fait plus de 12 ans maintenant, plus de 14 ans, en fait.
Ouais, c'est malade.
Ouais. 800 000 utilisateurs à travers le monde, okay. Environ 400 000 sur nos versions gratuites en freemium. 400 000 dans la version tout ce qui est paid.
Vous avez un gros freemium.
Ouais, on a un gros freemium. Puis ça, on pourra en parler. Tout ce qui est middle market, le middle of the funnel, là, en marketing là, ou en vente. Là, on va dépenser bien de l'argent dans le top of the funnel, créer de la demande, créer du lead gen. Puis on va dépenser bien de l'argent à closer ces leads-là. Mais entre les deux, tu sais, le gars, il vient sur ton site web, par exemple, tu sais.
Ouais.
Dans l'ordre, il arrive, il dit bon, pour X raison, c'est pas le bon timing en marketing, tu le sais. Timing, c'est tout. Là, fait que ça se pourrait très bien qu'il est arrivé sur ton site, qu'il soit rentré dans ton funnel, puis les gens de vente, ou peu importe comment tu fonctionnes en product-led ou name it, timing n'était pas bon, peu importe, le projet s'est fait mettre sur stand-by, mais c'est important de garder ces gens-là actifs dans ton funnel. Tu sais. Il y a tout l'aspect de lean nurturing, là,
valeur, d'amener de la valeur.
Exact.
Nous, on essayait de le faire avec l'infolette, avec du content qui sortait chaque semaine, un peu sur Twitter. Mais vous autres, vous avez carrément une communauté, je pense, qui permet de faire ça.
Une communauté. On a 6000 membres actifs sur notre forum d'évolution, sur notre forum de discussion. Mais c'est important, les versions gratuites. C'est pas des trials, c'est pas une version d'essai. La version d'essai est là pour essayer les paid features, right? 30 jours, 14 jours. Là,
C'est comme un échantillon.
Un peu, on peut dire ça. Mais la version gratuite, nous, on y croit beaucoup chez nous pour justement top of mind, garder les clients dans ton écosystème. Puis après ça, c'est du product-led où est-ce qu'il y a une certaine limitation, puis évidemment qu'il passe en mode paid.
Ouais.
Mais l'idée, c'est même pas de faire... C'est pas notre business model, il est pas basé comme Dropbox, tu sais, où est-ce que...
Ouais, non.
Eux, leur business model est axé sur faire passer 3-4% de leurs users en mode paid.
Ouais, puis eux autres, il y a l'effet de réseau qui est boosté par le fait que c'est gratuit. Fait que, tu sais, c'est pas les mêmes unit economics, là, ou je sais pas quel mot utiliser. Puis, mais ce que je trouve, on dirait que je viens de flasher sur quelque chose. Mais tu sais, bon, une base du contenu marketing, c'est offre de la valeur gratuitement.
Exact.
Prouve que tu comprends les problèmes, les enjeux, l'industrie. Continue de le faire, ça développe un lien de confiance, ça te laisse top of mind, comme on dit, puis quand les gens vont avoir besoin de ton produit, ton service, ils vont penser à toi. Mais ça, c'est content. Mais j'ai l'impression qu'avec ce que tu dis, pourquoi pas ne l'appliquer au produit, qui est une partie de tes fonctionnalités qui peuvent vivre de façon gratuite ad vitam aeternam, puis qui agissent comme cette espèce de middle du funnel-là, comme tu dis. Parce qu'on dirait qu'il y a comme deux écoles de pensée hein, par rapport au freemium. Là. T'as du monde,
ouais,
t'as du monde qui haïssent ça pour mourir.
Ouais,
c'est genre, ça dévalue la valeur de ton software, ça fait que c'est du monde pas sérieux.
T'as raison.
Puis on dirait que je sais jamais... Moi, je suis assez nuancé dans la vie, fait que je tranche pas d'un bord puis de l'autre, mm-hmm. mais la manière que tu l'apportes, en tout cas pour l'évolution, ça fait fucking du sens de l'incruster là.
Ouais, je pense que ça fait partie de ton business model. Ça dépend c'est quoi ton business model, à qui tu t'adresses aussi. Parce que si toi, ton target, c'est le Fortune 5000, puis tu veux aller chercher des deals à 200, 300, 400 000 US par année, puis c'est ça ton business model, évidemment que ça a peut-être moins sa place parce que là, ça fonctionne seulement si tu vises un marché de masse. C'est-à-dire, si tu vises un marché qui est mondial, par exemple, là, ça fait du sens.
Ouais.
Je parlais avec des gens depuis, ben, en fait, depuis des années, mais évidemment que si tu es très en account-based marketing ou est-ce que toi, tu t'adresses aux pharmacies aux États-Unis, exact. Par exemple, ça ne fait pas tant de sens d'aller vers le inbound. Tu en as 40 gros joueurs, puis vise ceux-là, puis c'est pas mal ça ton target.
Ouais.
Ça fait moins de sens d'y aller vers un produit freemium avec du nurturing puis de bâtir une communauté autour quand dans le fond, ce que tu as à faire, c'est de prendre ton sac, partir puis d'aller voir ces gens-là. T'sais.
Fait qu'en fonction du TAM, en fonction du ARPU, la valeur moyenne de l'utilisateur, ton modèle d'affaires doit fitter un peu là, avec comment tu vas... Tes canons d'acquisition, basically. Mais là, fait, on l'a dit, ça fait 14 ans à peu près, là, mettons.
14 ans, pour répondre à ta question, une couple de chiffres, 200 employés, c'est plus que 200 employés maintenant. On est rendu year over year growth, on l'a fait le calcul hier, 42% environ. Il y a depuis 14 ans, finalement.
Sur 14 ans,
c'est une très forte croissance.
Bootstrap.
Bootstrap.
Fait que là, il n'y a pas eu, mettons, David, là, au début, là, qui connaît la première version du Remote...
Remote Desktop Manager,
bon,
exact.
Qui connaît Remote Desktop Manager dans son sol. Il était financé par sa tante qui avait hérité? Il n'y a pas de capital de risque? Il n'y a pas...
Non.
Vous avez-tu levé de la dette un peu de temps en temps pour...
Même pas. On est profitable since day one. Il y a eu en 2009, il y a eu un contrat de 100 000 qui avait été donné. Une entreprise qui s'appelait Destone aux États-Unis, je me souviens bien, qui voulait avoir une espèce de white label de son produit.
OK.
Fait que, tu sais, en growth hacking, là, tu sais, ça, tu vas l'aimer, celle-là. Un des trucs que David Hérieux a fait, parce qu'il y a un bon mindset de business, il avait lui-même mis son outil sur les sites de piratage, dans le temps des sites de piratage de KeyGen, de tout ça. Fait que lui, il avait dit, tant qu'à le faire leaker, on va faire ça de la bonne manière, on va donner le bon outil au moins qui fonctionne bien, tu sais.
Hey dude, ça, c'est bon.
C'est bon, là, tu sais. Fait que là, tous les sites de download X, là, de KeyGen, c'était ils s'étaient fait des comptes, tu sais. Puis moi, quand je suis arrivé chez Devolution, on gérait ces comptes-là. Fait que c'était des comptes de supposés hackers, si tu veux, qui disaient, hey, voici la version de RDM, Remote Desktop Manager, là, l'acronyme. Puis c'était nous autres en arrière qui feedaient ces gens-là pour atteindre un mass market intéressant. Puis à un moment donné, si tu l'utilises chez vous parce que X raison dans ton petit lab à maison, puis que toi, bon, tu arrives en entreprise, il n'y a pas une entreprise qui va dire ah, c'est bon, va chercher ton KeyGen, tu sais, ça coûte combien ton affaire, là, tu sais. Puis on était dans des price points à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est assez abordable. On parle de 300$ par utilisateur par année jusqu'à 600-700$ selon le cas.
OK.
Mais au début, pour répondre à ta question, il y a eu un 100 000 qui est arrivé parce qu'il a fait du bruit avec l'outil, puis Destin a dit hey, on aurait besoin de c'était un truc de. Virtual desktop, il fallait qu'il gère les endpoints avec ça. Puis on dit go. Puis ce 100 000-là, il a permis d'engager deux employés, en fait. Puis lui, il avait dit, après ça, je me souviens bien, il avait dit, mais que je fasse 5 000 $ par mois, je lâche ma job. Fait qu'il travaillait à Montréal, peu importe. Puis ça a parti de même.
C'est drôle d'autre parce que 5000 par mois, c'était notre threshold chez Snip pour faire une nouvelle embauche. Parce que ben, les gars étaient conservateurs avec le capital.
Ouais, ouais.
Puis ce que je trouve malade dans l'exemple que tu dis, c'est que votre ICP, Ideal Customer Profile, est très geek, est très hackish, hacker, je sais pas comment. Fait que vous, en faisant ce leak-là de torrent ou peu importe, vous vous êtes créé des, basically, des futurs champions, des futurs évangélistes d'une compagnie qui, eux autres, sont comme « Yo, là, on va pas prendre une version craquée, là, on va payer. »
Ouais.
C'est fucking sick.
Growth hacking 101, mon gars.
Growth hacking, hein? Ça existe encore. Il y en a des hacks.
Ben oui, il y en a encore.
Il y en a, mais, mais ça scale pas, les hacks. T'es-tu d'accord avec ça?
Ça scale pas. Mais non, ça scale pas. Je veux dire, tu peux pas te baser sur...
C'est ça, okay, c'est juste... Comment...
Des... Ah, c'est ça, c'est des one-off.
Ouais,
tu sais, au début, de tes... quand tu kickstart un projet, là, tu peux partir, puis t'as des... Tu peux le timestamper, c'est-à-dire, OK, là. Puis dans le temps, Google n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On avait hacké, ben pas hacké, c'est pas vrai, mais on cherchait, dans ce temps-là, c'était beaucoup ce qui était viral, tu sais, en 2012. Ouais, ouais. Tu sais, là, on cherchait toute l'espèce de, une vidéo virale, mais vidéo, c'était même pas des vidéos encore, là, mais tu sais, piece of content qui devient viral, puis tout ça, tu sais, puis... On a créé ce qui s'appelle Six Ennemis Notaires, qui était une BD dans ce temps-là, qu'on avait dit. Moi, j'avais dit ça me prendrait du contenu facilement partageable, que les gens ont envie de partager.
Sur leurs médias sociaux.
Sur leurs médias sociaux. Powered by Devolution. Puis pas de quoi trop sérieux, trop business, de quoi qui vient juste montrer qu'on comprend bien leur pain à eux autres. Ça partit de même le projet. On a engagé un artiste d'ici de Montréal. Il est encore avec nous autres 12 ans plus tard.
C'est quoi son nom déjà?
Patrick Desilets.
Patrick Desilets,
exact. Qui est le créateur de
Cécile. Là, il faut que je te demande, parce que d'où je faisais ma prep, puis là, j'ai checké une couple d'éditions de Cécile Notaire, puis j'étais là, bon, c'est bon, tu sais, c'est cute, c'est clairement, tu te mets un peu dans la peau de ces gens-là, puis tu crées un personnage qui est comme caricatural, tout ça, c'est de l'excellent contenu marketing. Mm-hmm. Je vais vous le donner, mais ma question, c'est... Est-ce qu'il y avait un peu d'inspiration de XKCD?
Exact.
Parce que ça, ça a été aussi un...
Ouais.
Dans le monde du dev, là, moi, je m'en ai fait sherry quand je commençais là, par d'autres devs.
Ouais. Ça a été une source d'inspiration, peut-être pas dans le contenu, plus dans le format.
Okay.
Même l'idée derrière de dire on prend un cartoon, c'est venu de là un peu aussi. Mais on voulait un cartoon qui reflétait la réalité. Puis encore aujourd'hui, on est rendu, écoute, à au-dessus de 130 strips qu'on a mis en ligne.
C'est hot, man.
Dans notre newsletter, notre monthly newsletter, il est là tout le temps. Il y a des gens qui sont subscribed au newsletter mainly parce qu'il y a ça. Y a
comme le monde prend le journal pour le puzzle ou les cartoons.
Puis on l'a fait scaler parce que c'est devenu notre image de marque, c'est devenu notre brand. Quand tu vas sur nos sites, c'est Pat Desilets, c'est l'artiste derrière avec qui on travaille dans le marketing, qui fait toute notre brand, nos icônes, les boots. Quand tu vas dans un trade show et tu arrives au boot, c'est notre boot qui est là, c'est du Six Ennemis Notaires qui est là.
Ça permet de stand out, de se distinguer. Puis c'est le IT, l'ATI, ça peut sembler beige ou comme froid, comme industrie, mais justement, de le rendre comme ludique, comme ça, c'est une manière d'être, de se distinguer que j'aime beaucoup.
Tu parlais de. Tu sais, on avait. Tu parles d'Identified Profile ou Persona, tu sais.
Ouais, ouais.
Quand tu te mets à connaître c'est qui ton client, puis tu comprends vraiment c'est qui dans la vie, ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il fait triper, bien, tu arrives avec des espèces d'initiatives comme ça qui sortent un peu de la boîte, c'est cliché de dire ça, mais si tu connais bien ton persona, puis tu sais exactement ce qu'il fait, ce qui résonne avec lui, qu'on dit en marketing, bien, tu arrives avec des trucs du genre qui sont comme out of the business, mais en même temps, ça parle au monde, tu sais, puis ils sont comme, OK, cool, tu sais, eux autres, ils comprennent ma réalité, puis il y a de quoi derrière eux autres que je dois aller voir, puis après, ils découvrent tes outils, puis ils découvrent qui tu es, tu sais.
Avec Snipcart, on vendait du logiciel de commerce en ligne à des programmeurs web.
Ouais.
Fait que dans notre contenu marketing, on mettait des snippets de code de comment tu pourrais faire telle affaire, mais on créait des GitHub repos open source gratuits dans clonable. Ouais. Fait qu'on donnait des espèces de nuggets de tu sais, va jouer avec, là, tu peux le cloner puis commencer à gosser direct dans le code.
Mm-hmm.
Encore une fois, parce que ça nous prenait plus de temps. Comme faire une bande dessinée aussi, ça prend plus de temps. Mais c'est ça s'aligne vraiment avec genre les besoins et le profil de ton persona, comme tu disais.
Puis tu l'as dit tantôt à Inbound, faut que tu donnes. Tu es prêt à donner plus que qu'est-ce que tu comptes recevoir, tu sais.
Surtout
au début. Moi, j'ai toujours dit que ça prend 2 ans à mettre en place une stratégie d'inbound marketing, tu sais.
Moi, je dis 12, puis je me sens. 12 mois, puis je me sens mal. Fait que je pense que je suis d'accord avec toi.
2 ans. Puis j'ai 2-3 cas avec des gens que je connais bien maintenant. Sont venus me rencontrer au fil des années pour dire « Hey, qu'est-ce que t'as fait? » On aimerait ça répliquer.
Qu'est-ce que t'as fait de bon?
Puis je donne un peu le footprint, le blueprint de la stratégie. T'sais. Je dis, attends, t'as pas d'avoir des résultats demain matin. Ça prend un bon 2 ans avant d'avoir un résultat qui vaut la peine là de mettre du temps pour vrai. Puis j'ai 2-3 use cases de gens qui sont venus me revoir 2 ans plus tard. Puis Chris, t'avais raison.
Ils l'ont fait.
Nice. On l'a fait, mais ça prend 2 ans. Puis ça prend une ouverture d'esprit. C'est dans la culture. C'est dans. Tu sais, la business doit suivre cette mode-là aussi. Parce que si tu dis, OK, on est en inbound, puis d'un côté, au niveau des communications, t'es prêt à donner du contenu, peu importe, là, white paper, name it. Mais de l'autre bord, t'es pas prêt à rien donner au côté produit. Oups, là, déjà, ça manque un peu de. Comment je te dirais, ça manque un peu de cohésion quelque part, ou de culture d'entreprise, ou de DNA, de dire, tu sais, l'écosystème que tu te mets en place comme business quand que les gens viennent te voir, il faut qu'ils sentent ça à travers ton site web, ton support, tes ventes, ton marketing, qu'est-ce qu'ils reçoivent. Il faut que tout soit cohérent dans le message, tu sais.
Ouais.
Fait qu'il faut que toute l'entreprise soit ralliée et alignée sur ce business model-là.
Cet ethos-là, cet ADN-là, comme tu dis. Par contre, OK, ça me fait penser à 37 affaires différentes, là, laisse-moi re-zoomer. Quand tu es 3-4 personnes, c'est facile que tout soit aligné. Tout le monde fait du code, du marketing, du support.
Ouais.
La cohésion du message, cet alignement-là, c'est facile.
Mm.
Vous êtes rendu combien, là, tu dis?
205, 206.
Bon. Là, c'est plus la même game, right?
Nope. Pas en tout.
Fait que, pour avoir fait du product marketing chez Douda, essayer d'aligner différents départements dans différents pays sur différents produits, sur comment qu'on parle de ça,
ouais.
C'est étourdissant en hostie.
Ouais.
Fait que ma question, I guess, c'est quels ont été ces espèces de défis de scaling-là?
Mm-hmm.
Puis avant ça, je m'étais pinpointé de quoi dans ma tête. Pourcentage de SaaS versus pourcentage de on-prem, self-hosted pour les produits d'évolution, juste pour qu'on ait cette idée-là en tête, puis ouais. Après ça, on peut bouger.
Ouais. Ben, nous, en mode SaaS, on a une solution qui est SaaS, là, qui représente ouais. une portion de nos revenus,
okay,
qui est notre logiciel de gestion de mots de passe en ligne, finalement. Donc, tu peux connaître les 1Password, Dashlane, LastPass que tu connais peut-être, ouais. Keeper Security, name it. C'est un gestionnaire de mots de passe comme... ce que j'appelle un bien de commodité maintenant, c'est-à-dire que ces solutions-là font sensiblement toutes la même chose. C'est quand tu les prends à part une de l'autre, c'est-à-dire que nous, dans l'écosystème, ça fait beaucoup de sens. Là, on tombe dans le long-tail marketing, c'est-à-dire, je donne un exemple, si, puis là, je ne vais pas dévier trop, là, mais
bon,
si toi, tu dis, je vais partir un site de streaming, par exemple, puis moi, c'est les filles de Caleb que je vais streamer, qui va payer pour ça, tu sais? Pas grand monde, right? Mais si t'es Netflix ou name it, tout.tv, puis tu t'offres les filles de Caleb, oh, tu sais, ça fait du sens à quelque part parce que là, tu viens de détendre ton offre à un paquet d'auditoires différents.
Mm.
Puis en long-tail marketing, ce que ça dit, grosso modo, c'est ça fait bien du sens d'avoir un gestionnaire de mot de passe à travers ton catalogue ou ton écosystème. Mais en stand-alone, comme seul produit, bonne chance à aller te battre avec ça, tu sais.
Est-ce que. Ouais, ouais, puis là, on vient à la. Fragmentation versus centralisation de différents cas d'utilisation dans un logiciel ou plusieurs. Mais est-ce que ça roule standalone, votre password manager, ouais, right?
Ça roule standalone.
Je suis pas obligé de connaître le reste de l'évolution. D'utiliser, je pourrais juste utiliser ça.
Exact.
Mais dans le user base.
C'est pas ça qui arrive.
C'est ça. Il y en a plein qui utilisent le reste.
Le reste. Okay, c'est bon. Puis le reste, c'est quoi? C'est 98% du subscription base. Donc. Okay. En self-hosted, c'est-à-dire que les gens l'installent dans leur environnement, soit on-premise ou dans leur cloud privé, par exemple, ou dans leur stack sur Amazon, sur Google, sur Azure de Microsoft. Fait que c'est du subscription-based quasiment mur à mur. Une petite partie qui est du perpetual licensing qui nous reste encore.
Okay, ouais.
On a fait le move en 2019, on était complètement à l'inverse. On était 99% en maintenance license fee. Donc, ouais. C'est le classique dans ce temps-là, c'était... tu payais, mettons, ta licence.
One shot.
Puis tu avais un 20, 30, 40, 50% de maintenance fee année, year after year à payer.
C'est similaire à ce que les gars de 37 Signals font avec Once.com. Ils viennent de lancer ça. Ou est-ce qu'ils veulent faire des produits que tu peux payer juste une fois, puis peut-être avoir. Tu sais, ils ramènent ce vieux modèle-là un peu comme populaire pour plusieurs raisons. Puis
ouais.
Ça, c'est une crise de dérap. Fait qu'allons pas.
Mais c'est un bon débat.
Fait que. Ouais. All right. Fait que là, toi, Dude, t'es là depuis pratiquement, presque le début de l'évolution.
Ouais.
Aujourd'hui, tu gères le marketing, tu gères les ventes. Qu'est-ce qui a changé? Non, laisse-moi le préciser. Y a-tu des dettes que t'accumules avec dépasser la décennie? Des dettes, soit au niveau des processus, au niveau des outils, au niveau de ton code, de comment tu fais du marketing? On dirait parce que moi, je n'ai fait du marketing pendant 6 ans activement. Un peu sur. Mais tu sais, je n'ai jamais fait autant longtemps que ça.
Mm-hmm.
Fait que je me demande, pour cette partie-là de l'entreprise, si tu peux m'en parler un peu.
Ouais. Je te dirais, une des grosses dettes techniques qu'on avait, c'était la gestion de nos clients, parce que tu comprends, on a 12 500 clients chez nous.
Okay.
Répartis en différents thresholds, différents tiers, je devrais dire. On avait accumulé, tu sais, à un moment, là, sans farce, là, j'étais rendu, je pense, à 450 000 mailable contacts. T'sais.
Ouais, c'est du monde.
Mais c'était du monde qu'on avait attrapé à gauche puis à droite. Pas de consent, pas rien de ça dans ce temps-là. Okay. Fait que, à un moment donné, il faut que tu fasses le clean-up là-dedans. T'sais. Fait que t'as du monde que je...
Okay.
Tu sais, dans le temps, on était très cow-boy, là, tu sais, les limites ou les, tu sais, on le faisait puis on pensait après, là, tu sais. Fait que c'est ce qui a changé beaucoup, c'est ça. Et par rapport au CRM, entre autres, toutes on avait notre propre CRM chez nous. On avait un CRM qu'on s'était développé nous autres mêmes pour nos besoins.
Ça, c'est des devs.
Puis, ouais, exact. Fait qu'on avait, exact, une compagnie de devs qu'on s'était monté notre propre stack pour gérer quoting, invoicing, tout ce qui était lead gen puis tout ça. Puis on est arrivé au bout en pré-pandémie 2019. À un moment donné, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait faire avec okay. ça.
Fait que là, toi, il a fallu que tu te mettes en mode ouais. shopping ouais. de software.
Exact. Mais ouais, exact. Shopping de nouveau CRM.
Brûler sur quoi, là, mettons?
Salesforce.
OK.
Salesforce, quasiment, je te dirais, back-to-back, c'est-à-dire.
Puis HubSpot aussi pour, mettons, l'inbound?
Non, pas HubSpot. Pas HubSpot. HubSpot, il est bon. Je te dirais que c'est un très bon outil. Quand tu as besoin de quoi qui est... comment je te dirais? Quand ton use case est assez simple, puis que tu n'as pas un trop gros volume, ça va fonctionner bien. T'sais. Mais nous autres, on avait du monde in-house pour... J'ai une équipe chez nous, Salesforce, j'ai des architectes, j'ai des admins chez nous qui font juste travailler dans Salesforce. Fait que ça a été une grande dette technique à savoir comment on fait... On transige de ce CRM-là à une nouvelle plateforme carrément. On est en train d'intégrer des produits comme NetSuite au niveau financier. On intègre Salesforce, Pardot, ou maintenant la nouvelle suite de Salesforce au niveau marketing. Tout ce qui est services aussi sont sur Salesforce maintenant. Fait qu'il y a un paquet d'outils qu'on a tassé pour centraliser tout ça dans l'environnement de Salesforce maintenant.
Fait que ça vient aussi avec une gestion de changement puis de l'éducation de ton staff pour être sûr que tout le monde adopte puis tu l'uses un peu de la même manière.
Ouais.
Puis ça, c'est 2019, ce genre.
Ouais, à peu près. À peu près 2018-2019, là. Je me souviens bien, là, je ne vais pas dire de mentir, mais c'était avant la pandémie, puis on avait fait le call de dire « OK, là, je suis arrivé au bout. » Parce qu'à un moment donné, on t'est rendu que tu prends plus de temps à développer un CRM que de focusser sur ce que tu as à faire, finalement. Mmh.
Ouais.
Fait que là, on a décidé de couper tout ça, puis on est parti sur un journey début 2020 là, avec Salesforce. Là, pour,
okay.
Ça a pris... tu vois, on arrive, là, on vient de finaliser le projet 3 ans plus tard, de tout ramener, mais il y avait beaucoup de challenges par rapport au data.
Ouais,
le data... Quand tu fais un changement comme ça, tu ne veux pas rentrer du data qui est pollué. T'sais, tu veux faire tout le clean-up. Ça a été plus que la moitié de la job, ça a été de cleaner tout le data, puis après ça, l'emmener dans nos nouvelles plateformes. J'allais dire au niveau des process, maintenant, ben, ça a tout changé, c'est sûr. C'est plus la même chose. La pandémie nous a beaucoup aidé de notre côté. On était déjà en remote, c'est-à-dire on a un headquarter chez nous. On travaille physiquement 3 jours/semaine maintenant.
À
la Valtry, ça arrive nord sur la 40. Mais notre modèle d'affaires, nous, on ne se déplaçait pas chez les clients jamais, en fait. On travaillait toujours remote avec les clients. Donc, remote session, des démos à distance, des calls clients à distance. Fait qu'on était déjà en mode remote, nous autres, quand c'était arrivé.
Okay.
Puis là, on a transitionné. On était peut-être 70-80 employés dans ce temps-là. On ne pouvait plus se parler là, d'un bureau à l'autre dans des grandes salles comme on avait. T'sais. Fait qu'il a fallu tout formaliser nos process décisionnels, nos process de communication. On a rentré les Mondays de ce monde, les Jira, les name it, là, Slack. Heavy user de Slack. À un moment donné, on était Discord beaucoup pendant la pandémie pour se parler. Mais au niveau des process, tout a été... Tu sais, c'est un des gros challenges de scaling business. C'est par rapport au process à mettre en place pour te préparer à atteindre l'autre niveau. Puis le challenge, c'est pas tant mettre ça en place, c'est de rien laisser derrière. T'es-tu meilleur... T'es-tu plus efficient dans une business ou efficace parce que tu te mets à engager 50 personnes en un an? Tu te mets à mettre des process barre en barre dans le business, c'est pas vrai que tu es plus efficace ou plus efficient. Il faut que tu acceptes un moment que ta business, là, je prends une espèce de graphique, là, c'est sûr que si tu fais toujours la même chose, tu vas monter d'une manière très organique ou on va dire itérative, tu vas atteindre un plateau. Tu sais, c'est l'histoire que je pourrais te donner, c'est le saut en hauteur aux Olympiques. Ils faisaient du saut ciseau en 1908, tu sais. Le saut ciseau qu'on faisait au gymnase. Là, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un gars qui regardait ça et il disait... il y a une meilleure manière de sauter à bord. Puis s'il met à sauter la tête à l'envers, tu sais. Tu sais quoi je parle, right?
Ouais, ben ça me fait penser au free ski, là. Genre, quand j'ai commencé, les gars faisaient des 360. Les gars plus vieux que nous autres faisaient des 360. Puis tu sais, free ski, ça fait des années et des années, que je n'ai pas fait. Je suis rendu nul à chier. Mais quand tu checks les tricks qui sont faites aux X Games ou aux Olympiques aujourd'hui versus il y a 30-40 ans.
Non, ça c'est sûr que c'est pas la même chose.
Genre, la technique évolue.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que la technique évolue, oui, mais le gars, quand il a commencé à sauter par la tête, il était moins bon que les gens en ciseaux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que les gens qui sautaient en ciseaux étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs que lui encore. Lui, ça lui a pris comme un an d'entraînement avant d'arriver à faire la même chose qu'il faisait en ciseaux. Mais un coup qu'il l'a eu, paf, là, il s'est mis à. Tu comprends ce que je veux dire? Il s'est mis à planter tout le monde, tu sais. Fait que c'est un peu le même concept que je t'explique, c'est-à-dire quand tu mets en place un paquet de process avec du nouveau monde, du nouveau staff, ils n'ont pas eu ta culture d'avant, ils ne savent pas trop d'où est-ce que tu viens comme business, comme gestionnaire. Il y a un moment où tu viens mettre un poids sur tes opérations. Il y a un moment où, au lieu d'être plus performant, tu deviens moins performant, mais tu prends le guess puis tu le fais de façon très consciente avec un target clair de dire un coup, on a passé cette étape-là, par contre, là, on va transiger pour être encore meilleur que ce qu'on était avant. T'sais.
Fait que ce que tu dis, c'est un peu d'être conscient de cette genre de. Ce qui peut sembler comme un pas de recul quand tu as fait des étapes pour aller en avant, c'est normal.
Oui.
Mais target une place où tu vas être capable de mesurer, oui, mais là, on est rendu plus loin qu'on était.
Ouais.
OK, c'est bon.
Faut que tu sois conscient de ça. Tu sais, on dit faut prendre un pas de recul de temps en temps.
Oui.
Ben, c'est vrai. Je te dis, je peux mettre deux, trois exemples là, dans l'histoire de dévolution où est-ce que c'est il faut prendre un petit step back puis après être meilleur que ce qu'on était finalement.
Puis, tu sais, souvent, tu vas entendre en SaaS, en startups, genre « What got you here is what is won't is not ouais. » si bon, ça va pas, « is not what will get you there ». Fait que ce qui t'a amené ici, c'est pas ce qui va t'amener là-bas.
Mm-hmm.
En termes de personnes, tu l'as-tu vécu, ça? Parce que ta business de 10, 15, 20, 30 personnes avec une petite équipe de marketing là-dedans, puis là, on est au-dessus de 200.
Ouais.
Y a-tu des personnes que tu as dû laisser aller au courant de la croissance, genre? Des nouvelles que tu as dû rentrer?
Oui, il y a des personnes qu'on a dû laisser aller. Il y a des gens aussi qu'on a dû... Ben pas pour la mauvaise raison, par contre, mais il y a des gens... Quand la business grandit puis tu arrives à 200, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a de la place pour pas mal tout le monde. Je m'explique. Si ton attitude est bonne, tu es ouvert d'esprit, tu es curieux, tu sors ton intelligence, ton jugement, après ça, c'est le fun parce que, tu sais, quand tu as une petite équipe de marketing de deux personnes, tu as quatre devs, une personne aux ventes en admin, les mouvements latéraux sont assez restreints, right? Tu peux pas aller bien plus à gauche ou à droite que qu'est-ce que tu fais là.
Ouais.
Mais là, quelqu'un qui travaille, je vais te donner un exemple, qui travaille depuis 2 ans au marketing, puis lui, il dit, moi, je trippe parler aux clients. Ben, il peut transiger vers un rôle plus de vente à ce moment-là, plus de support technique s'il veut, s'il connaît le produit. Fait que, ce que je veux dire, c'est que dans un grand écosystème, puis tu sais, je me sens de guillemets, 200 non plus, on n'est pas 2000, là, tu sais, mais il y a de la place pour assurer les gens de qualité aux bonnes chaises. C'est ça que je veux dire.
T'sais. Nice.
Fait que, il y a des mouvements latéraux dans l'entreprise qui sont faits comme ça, pas plus tard que cette semaine. Des gens de communication qui sont rendus dans l'équipe de documentation technique. Des gens de documentation technique qui sont passés dans le département de formation. Tu sais, il y a paquet de mouvements comme ça. Donc, les gens peuvent se développer chez nous puis peuvent aller de l'avant dans leur carrière, tout dépendant de ce qu'ils veulent accomplir, évidemment.
Oui.
Fait que... Ouais.
Puis au niveau du canal même, parce que là, clairement, vous allez chercher des clients de différentes façons. Tu as parlé de trade shows, mais si on zoome sur les inbound marketing, content puis SEO, dans ces 14 ans-là, tu sais, qu'est-ce qui a changé le plus dans ce canal-là?
Le volume, premièrement, c'est plus le même volume. On a beaucoup plus de volume, évidemment, maintenant qu'avant. Ça, c'est sûr. En termes de channel, là, de canal, je te dirais encore aujourd'hui, notre plus grand canal, c'est Google les recherches organiques.
Ouais.
Notre positionnement, notre domaine authority, je me souviens plus exactement au-dessus de 80. T'sais, on a un bon positionnement sur les moteurs de recherche. Principalement, on a, je te dirais, deux gros assets entre notre blog, finalement. T'sais, notre blog, on est rendu au-dessus de 3000 articles là-dedans depuis 14 ans. On en publie 2 à 3 par semaine, day in, day out. Il y a une équipe de com, il y a des équipes de... Tout le monde s'occupe de générer ce contenu-là. Écrit vidéo maintenant aussi. On repurpose beaucoup notre contenu.
Sur YouTube.
YouTube. Il y a une partie YouTube, il y a une partie... sur LinkedIn, par exemple, on va faire des micro-capsules. On va prendre le vidéo YouTube, on découpe ça en petites parties, du micro-content, 10 secondes sur LinkedIn, par exemple.
Tout ça, c'est in-house?
Ouais, c'est in-house.
C'est du monde en interne, c'est très hot.
Ouais, c'est du monde en interne. Ça, c'est une décision qu'on a prise longtemps, d'ailleurs. On voulait avoir le contrôle, mais la latitude de faire ce qu'on voulait faire quand on voulait faire. T'sais. On est très. On navigue beaucoup et très rapidement. Puis commencer à outsourcer, c'est que tu ralentis ton process à quelque part. Il y a d'autres raisons pourquoi le faire, puis je suis tout à fait ouvert, puis je sais que c'est pas la solution qui va être parfaite pour personne. Pour quelqu'un en particulier, je veux dire, mais chez nous, c'était une décision qu'on a prise de développer ce talent-là à l'interne, développer cette pratique-là à l'interne.
J'adore ça.
Fait que Google encore, Google organique, beaucoup qui viennent sur notre. Je parlais du forum de discussion tantôt. Ouais. Tu sais, le forum de discussion, quand on regarde ça, c'est quoi? C'est des discussions de gars de TI qui ont entre eux et avec nous autres, avec les devs. Les devs sont. Mon CEO, David, est encore présent sur la plateforme. Puis ils discutent ensemble de pain challenge IT relié à nos outils, tu sais. Mm. Fait que quand tu fais du long tail keywords, ben quand tu cherches un long tail puis que tu es là-dessus, tu as des discussions, mon gars, depuis 15 ans là-dessus, ben tu vas couvrir large en tabarouette, tu sais, parce que tu en as du contenu. Là. C'est quoi du contenu finalement? C'est une pièce de contenu que les outils de recherche vont pouvoir poker si quelqu'un cherche ça, tu sais.
Oui, oui, c'est pas juste un blog post.
Non, 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 exact. Fait que ça, ça amène beaucoup de monde.
Le long tail keyword qui a rapport à ton product spécifiquement,
ouais, exact.
T'as basically pas besoin de 100% le targeter dans une genre de knowledge base, fac, genre academy, whatever, parce que c'est un genre de riche forum
ouais.
qui en plus est user-generated content, fac, Google aime ça que ce soit du UGC. OK.
Exact.
Ça, c'est malade, j'avais comme pas flashé là-dessus. Vous êtes-vous fait IT frappé par des pénalités via avec l'algo ou quoi
non.
que ce soit. Y a-t-il des moments où genre l'algo de Google change puis là tout est comme fuck, faut
non.
que je change.
Non, au contraire, nous autres on a toujours bénéficié de ces changements-là.
Parfait.
À toutes les fois que Google a updaté son jeu, à chaque fois nous ça nous a donné un kick-up.
Nous autres on s'est fait tourner une fois là, mm-hmm. je pense que c'était spécialement la performance, mettons on traînait genre un
ouais,
vieux site
ouais,
qui il s'aggrattait là, tu sais, ouais. à certaines places, puis ça a comme.
Ouais.
On a comme downé comme ça, surtout sur mobile. Mm. Puis là, on a refait tout le site, tout ça, puis on a ramené Charles McLaughlin, puis Ludo se sont remis là-dessus, puis ça, on l'a repogné. Mais comme, je m'en rappelle, tu sais, nous, c'était notre seul canal d'acquisition,
ouais,
mostly.
Ouais.
Puis je m'en rappelle de ce moment-là, il m'a dit, crise de tabarnak, genre.
C'est en quelle année, ça? C'est en 2018,
ça, c'est. Je venais d'être CEO, mais c'était avant de vendre, fait qu'on devait être en 2019, je crois.
Parce que je me souviens 2020. D'un gros pingouin, je me souviens plus lequel, mais il y en avait un qui avait fait du bruit vraiment ces années-là. Là, puis, il avait
moi, c'était 2020 ou 2019. Fait okay. que je pense. Mais ouais, OK, nice. Puis là, votre pricing à vous, là, tu l'as mentionné, c'est par site, par utilisateur dans le fond?
Ouais, par site, par utilisateur, tout
c'est
dépendant.
C'est un frais mensuel qui est dans les deux chiffres, c'est quoi genre?
C'est un frais annuel.
Annuel. Vous ne faites pas de mensuel?
Non, on ne fait pas de mensuel.
Même pas avec le SaaS.
Non, on a tout mis ça de côté. Beaucoup trop de.
Intéressant.
Je te dirais que. Au niveau opération, au niveau finance, au niveau gérer tout ça, là, tu sais.
Dans le back-end.
Dans le back-end, c'était du trouble. Puis, en bout de ligne, il n'y avait pas tant de revenus de plus à aller chercher parce que le monde mettait une carte de crédit sur le monthly base parce que. Des départements TI, de toute façon, chez nous.
C'est un commitment de.
Je te dis, ouais, exact.
De t'engager
on pas
dans
B2C,
le produit. Ouais.
On n'est pas dans du B2C. Tu le vois, de toute façon, le monde sont modulés. Ils vont faire quoi maintenant? Ils vont dire, mettons, 10$ par user par mois, build annually, right?
Ouais.
Tu sais, ils vont encore le, ouais, ils vont encore le mettre comme par mois, mais tu es tout billé annuel maintenant, tu sais. Fait que non, on n'a pas.
OK. Puis, une autre question que j'avais, c'est que, tu sais, moi, j'en ai parlé un peu sur d'autres pods puis de mon histoire avec Snipcart, où est-ce que. T'sais, j'ai été le main marketeur pendant longtemps. Après ça, je suis devenu CEO pendant 2 ans-ish. Puis quand je suis parti de chez Douda, après, la compagnie qui nous a achetés, il y avait un certain soulagement parce que j'étais tanné de parler de commerce en ligne puis d'e-commerce.
Ouais.
J'avais l'impression que si j'étais dans cette industrie-là puis que je parlais juste de ça depuis 8 ans plus, ça t'est-tu arrivé de vivre un peu de fatigue d'industrie puis de toujours être dans... Puis c'est juste de marketeur à marketeur. Là,
c'est une très bonne question, tu sais. Oui, puis non, tu sais. Parce que c'est un milieu qui change extrêmement vite dans le IT où ce qu'on est. C'est des industries qui. Les technologies, ça bouge super rapidement. Il y a toujours de quoi de nouveau qui apparaît. Faut que tu restes up to date. Mais l'industrie a évolué beaucoup, mais notre business a évolué beaucoup. T'sais, moi, je dis que.
Tes rôles à toi aussi.
Mais mes rôles à moi aussi, on peut en reparler, mais. Ce que je veux dire, c'est. Moi, ça fait 12 ans que je travaille chez Devolution, mais en réalité, j'ai travaillé pour, on va dire, 3 à 4 business en 12 ans. C'est-à-dire, de 2012 à 2015, Puis de 2015 à 2019, 2019 à 2022, puis après pandémie, c'est pas la même game, tu sais, c'est pas la même business, tu comprends?
En termes de tes rôles, en termes des produits aussi qui sont commercialisés, en termes des ressources que tu as en dessous de toi ou avec toi. OK.
Exact. Fait que j'ai pas l'impression.
Alors que moi, j'ai moins eu ça. Tu comprends? C'était tout petit, bootstrap, puis on était rendu 11 quand on a vendu. On était 20 après avoir vendu. Il n'y a pas eu le même delta de responsabilité ou de croissance.
C'est clair.
OK.
C'est clair.
Intéressant.
Tu sais, quand on regarde un peu, on fait des sondages internes sur la satisfaction des employés ou, bref, qu'est-ce qu'un employé cherche dans une job finalement? Tu sais, chez nous, le taux de roulement l'année passée était à 0%. Puis il y a
Mais ça, c'est insane, dude. Je vais te le dire.
Il y a des gens chez nous.
À 200 personnes, là. C'est quoi? C'est la culture qui est sticky? C'est le fait que vous êtes comme dans votre bulle dans Rive-Nord, puis tout le monde est heureux, puis cherche pas à faire du carriérisme, de travailler pour One Password aux États-Unis pour faire un plus gros... Tu sais, on dirait que dans ma tête, c'est genre... C'est, je comprends pas, tu comprends? Ouais. Je trouve ça sick, mais je comprends pas.
Je te dirais que... je te répondrais par deux grandes réponses.
Ouais, vas-y.
De un, les gens. Les gens qui tu travailles. Tu parlais de fatigue, tout ça, tu sais. Si t'as une bonne gang autour de toi, puis ça te tente de te lever le matin pour aller travailler avec ces gens-là, t'as du plaisir. Puis tu sais, chez nous, c'est dans notre culture, là, tu sais. Culture de gang, la culture. Tu sais, tu vas attendre. On a mis une table de baby-foot, personne joue, tu sais. Mais c'est un vieux cliché, là. Mais chez nous, les gens ont du plaisir ensemble, on se renouvelle tout le temps, tu sais. Fait que ça, c'est le prime abord, le sentiment de gang, d'accomplir de quoi ensemble, tu sais. C'est énorme.
Mais ça prend du leadership de qualité.
Ça prend beaucoup de leadership. Ça prend beaucoup de leadership. Puis on a vécu récemment. Puis j'ai hâte de le partager, parce que j'ai goût de le partager. Puis en même temps, ça va être un hommage à ce gars-là.
Ouais.
On a perdu notre CFO il y a un mois, nous autres. Il est décédé dans un accident. Puis.
Désolé, man.
Ah non. Merci. Je vais le nommer Simon Roy, notre meilleur CFO que j'ai jamais connu. Puis. Ça nous a grandement touché. Parce que c'était un chum, d'abord et avant tout.
Ça faisait combien de temps que...
Ça faisait 7 ans qu'on travaillait ensemble. Puis c'est une des raisons... c'est très personnel, mais j'ai envie de te le partager. Fait que Simon, c'est un ami d'enfance, tu sais. Puis une des raisons pourquoi je suis chez Dévolution, c'est à cause de lui, parce qu'il nous avait mis en contact dans le temps.
Ah,
puis il y a plusieurs personnes chez Dévolution encore aujourd'hui qui doivent leur emploi chez nous à ce gars-là, qui a dit « Hey, viens travailler avec nous autres. » Puis ça, c'est un ambassadeur incroyable.
Nice.
Il est décédé accidentellement il y a un mois. Puis ce que je voulais apporter, c'est quand tu es dans un esprit comme ça de gang, ça, le côté le fun, c'est de se lever le matin en disant « Hey, je vais travailler avec Simon. » Ça te motive, ça te drive. Tu parlais tantôt de fatigue, mais une des raisons pourquoi je n'ai peut-être pas connu ça, c'est ce sentiment-là d'être d'une gang ensemble, puis go, on fonce, tu comprends?
OK.
Puis quand tu perds ça, ben là, faut que tu trouves d'autres choses, tu sais. Fait que faut que tu trouves une autre source de motivation. Puis là, je suis là-dedans en ce moment, tu sais. Ben honnêtement, c'est plus difficile parce que c'est comme si, tu sais, le cœur à l'ouvrage, on va dire.
Ouais.
Là, on est tous dans une phase un peu plus difficile, je te dirais, par rapport à... Ça va être quoi notre prochain target, tu sais. Fait qu'on perd, c'est comme perdre juste, tu sais, ben juste, c'est de perdre un membre, pas de la famille. J'aime pas ça, l'idée de la famille, d'ailleurs.
Moi non plus, mais je comprends.
Sérieusement, là, ça, j'aime plus l'idée d'une gang, d'une équipe.
Ouais.
Ça, j'adhère à ça beaucoup.
La famille, non, mais un CFO qui est là depuis 7 ans, qui est rassembleur, ambassadeur, c'est comme enlever une patte d'une table.
Ouais.
Fait que là, pendant un bout, c'est shaky. Il faut que tu trouves comment on va remettre.
Ouais.
C'est des piliers. Là,
c'est pas une question de... Tu sais, on a des plans de résilience chez nous très bien faits.
Ouais,
c'est-à-dire, au niveau des opérations, c'est pas ça l'enjeu.
Non, vois, je comprends.
C'est très humain que ce que je te parle là.
Ouais.
C'est au niveau de la culture. On parlait de gang tantôt. C'est là que c'est plus difficile à... Mais la vie change, la vie continue. On va trouver d'autres choses. Mais une des raisons pourquoi que les gens sont chez nous, c'est ce fort sentiment d'appartenance-là, notre mission, notre business, qu'est-ce qu'on fait. Puis l'autre aspect, c'est, si on revient à ta question, les gens, ils ont besoin que leur carrière avance, right? Ils veulent pas se faire mettre tassé d'un... Ils veulent avoir l'impression, pas l'impression, pas juste l'impression, c'est, ils veulent que ça l'avance, right?
Ouais.
Fait que quand la business passe de 50 à 200 ou 25 à 200, tu comprends que les projets sont plus les mêmes. Tu parlais des CEO tantôt, mais mon spécialiste SEO chez nous, ou Analytics, name it, il fait des très grands projets maintenant. Il est rendu un spécialiste, un expert là-dedans. Tout lui qui a monté notre GA4, il est passé de Google Analytics Universal à GA4, il a tout pris ça en main, ça a pris 3-4 mois, il s'est mis là-dedans. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est, vu que l'entreprise grandit à cette vitesse-là, les projets, même si c'est pas, puis tu sais, moi je crois beaucoup à ça aussi, mais tu as la track, tu sais, en entreprise, habituellement, tu vas améliorer ton sort. Tout le monde va améliorer son sort, tu sais. Puis il y a l'attrait, on va dire, management. T'sais, on va dire, les gens veulent dire, ben moi, je veux devenir manager, mais nous autres, on a mis en place la track spécialiste expert. C'est-à-dire 100%. Que tu n'as pas besoin d'être manager d'une équipe pour t'épanouir chez nous. Deviens un expert dans une spécialité, puis fais-le day in, day out d'une manière impeccable.
Il y a ça chez Shopify aussi. J'ai un de mes meilleurs potes qui est, il a vécu cette espèce de fourche-là, puis il est comme devenu senior staff designer, je ne sais plus quoi. Il est venu sur le pod, le Cass Marcotte Richardson, puis lui, c'est un. Il exécute, mais il parfait son art. Exact. Genre. Mais il n'a pas nécessairement de l'intérêt de gérer tout plein de monde.
Exact.
Mais ce que, de plus tu parles, plus j'ai l'impression que vous avez eu une certaine chance avec le timing que la croissance de votre compagnie fit avec la croissance des carrières qu'il y a dans votre compagnie. Puis ça, des fois, dépendamment du marché, dépendamment à quel point tu vas vite ou pas, dépendamment de l'ambition du monde, il y a comme un certain career company fit qui est beau, genre.
Mais c'est un bon point. Puis tu sais, j'ai pas nécessairement pensé à tout ça, mais tu sais, notre moyenne d'âge a passé, en 2012-2013, disons, on était peut-être à 26-27 ans.
Ouais.
Aujourd'hui, on est plus rendu autour de 37-38, tu sais.
Ouais, fait ben ça fit aussi.
Ça fit parce que les gens ont grandi à travers ça, tu sais. Puis les gens, on a adopté aussi la business. La business a grandi, les gens ont grandi vice-versa avec.
Alright folks, break de 30 secondes pour vous parler de notre partenaire certifié Baseline, une firme d'accompagnement en intelligence artificielle. C'est des geeks puis des doctorants, mais avec plus de street cred que ceux que vous allez trouver dans Big Bang Theory, mettons. Ils ont accompagné plusieurs SaaS pour comprendre, collecter, valoriser leurs données. Pis c'est pas quelque chose qui est toujours simple, mais Baseline font drette ça, puis c'est des pros là-dedans. Fait que leur input vous permet de identifier puis développer des fonctionnalités critiques, souvent améliorées par l'IA. Abstraire votre proposition de valeur dans une interface chat, automatiser des workflows puis de la personnalisation UX et plus encore. Donc, check out leur entrevue sur saspass.com/partenaire/baseline ou sur notre YouTube. OK? De retour au pod.
Puis comment tu fais pour que ça soit... Ben, là, on tombe dans le RH puis on est off script, mais j'imagine que ça te dérange pas.
Non, pas du tout ça.
Ouais. Comment tu fais pour... Tu sais, à un moment donné, tu as un héritage culturel. C'est comme Chris, ça roule depuis 2009, 2007, tu dis?
2010, excuse.
Tu sais, ces gens-là ont vécu, man. Ils ont saigné ensemble, sont allés au combat ensemble, sont utilisés. Comment tu fais pour que ça soit comme accueillant ou inclusif pour du nouveau sang qui arrive, là, tu sais? Qui se sentent pas genre, oh shit, là, c'est tous des genres de vieux routiers qui ont fait plein d'affaires. Ouais. Comment qu'ils.
Tu sais, techniquement, je pourrais te parler de programme de mentorat qu'on a chez nous, de programme d'accueil, tu sais.
Qui fait qu'il y a des efforts de process.
HR, là, tu sais, une des affaires qui a changé beaucoup au niveau des process, l'embauche, là, l'accueil des nouveaux, on est loin de. T'sais, on n'était pas meilleur que les autres, puis aujourd'hui, on a encore. T'sais, on est, ça, c'est un des aspects chez nous, t'sais, c'est qu'on n'est on est jamais satisfait vraiment de ce qu'on fait. T'sais. Ouais. On ne second-guess pas, par contre. On ne fait pas de Monday morning quarterback. T'sais. On ne dit pas, ah, j'aurais dû prendre telle décision à tel moment, parce que dans ce moment-là, c'était la décision à prendre, be it. Mais on est tout le temps en train de se dire, on fait encore les bonnes choses. Puis l'accueil des nouveaux, entre autres, c'est un des aspects qui a grandement évolué chez nous depuis ben, sa partie, je te dirais, pandémie-ish. Là, parce que s'il y avait d'autres challenges à accomplir là-dedans. Mais c'est de faire vivre. On a un culture book chez nous. On a un code source ou source code en anglais. Là.
OK, vous l'avez appelé code source de la compagnie.
Exact. Il y a eu beaucoup de travail de mis là-dessus par le département d'HR, de marketing. Puis j'aurais pu te l'emmener d'ailleurs, j'ai pas pensé.
Pas grave, j'irai faire un tour.
Mais ça l'explique toutes les histoires, les inside jokes, les symboles qu'on a chez nous.
Les codes.
Les codes. Tous les codes qu'on se donne. Pourquoi ça, c'est là? Pourquoi qu'on donne une fucking lampe extérieure quand au Underdog Trophy? On donne on a un trophée chez nous, un vrai trophée. C'est une lampe extérieure. Je te raconte l'histoire à un moment donné, là, mais grosso modo, on avait reçu une lampe. Personne ne savait c'était à qui à la lampe. Puis on a versé une lampe au bureau, on reçoit un colis, c'est une lampe. Là, on est comme, Christ, c'est à qui à la lampe?
C'est qui?
Là, il y a quelqu'un, on fait tirer à la lampe. En tout cas, on a un système chez nous de on fait tirer des billets de hockey, mettons, affaires. Nice. C'est pour. Fait qu'il y a souvent des petits tirages. Puis à un moment donné, on dit, Christ, faisons tirer la lampe. T'sais.
OK.
Mais la lampe était devenue tellement un running gag que tout le monde s'est inscrit au fucking truc de lampe. Puis ça a fait bugger le système, puis finalement, bref, il y a quelqu'un qui l'avait gagné, finalement, ça fitait pas, il l'a ramené. L'autre personne, ça fitait pas, puis il l'a ramené, puis on a dit, bon, on est pogné avec, faisons de quoi avec.
Okay.
Puis c'est rendu la fucking lamp ou la flamp. Puis ça, c'est notre symbole.
Wow, man.
C'est notre symbole de... c'est un émoticône dans Slack, c'est notre trophée underdog, on a nos noms là-dessus, puis c'est devenu notre symbole. Fait que
J'adore ça.
All in all, c'est juste de dire qu'on fait vivre ces symboles-là, ces codes-là à travers le temps. Puis c'est une responsabilité de l'équipe de management, nous autres, d'abord et avant tout, de propager cette culture-là par l'exemple, entre autres.
Okay.
Puis de, tu sais, on a un simulateur de golf chez nous, là, les gens vont rire parce que je suis souvent là, disons, là, mais ça part d'abord et avant tout de la haute direction ou de l'équipe d'exécutif de montrer que nous aussi, on est là, on fait partie de la gang. Parce que si tu es tout le temps dans ton bureau et tu travailles pas avec ta gang.
Tour d'ivoire un peu.
T'as beau dire que tu as une belle culture, mais si tu ne fais pas vivre toi-même en partant, là, ça ira pas bien loin.
À une micro-échelle, là, ce que je faisais chez Snipcard et qui était apprécié par la majorité des gens, c'est que j'allais chaque semaine, le vendredi, mettons, avant ou après dîner, je prenais une heure, puis j'allais marcher avec un teammate, un joueur, une joueuse, puis on parlait de n'importe quoi. Puis on faisait deux tours de bloc, ça prenait 35 minutes, une heure. Mais tu sais, à un moment donné, avant, c'était comme rendu un peu la rotation, on faisait que j'avais pas le pouls. Mais d'être présent, puis d'être proche, puis d'avoir des lieux que tu peux faire ça, c'est hot, man.
Ouais, puis ça scale, on l'a scalé. HR a fait des programmes de. Tu sais, on a un paquet d'initiatives maintenant, où est-ce que non, on fait plus. C'est pas vrai tout à fait, mais on fait plus le petit tournoi de baby-foot le soir du midi, mais à cette heure, on fait des événements. On a une salle de spectacle chez nous. On fait venir on fait venir des conférenciers. On fait vivre cette culture-là d'autres façons, mais elle est encore très présente chez nous, juste à un autre niveau, parce qu'à 200, évidemment que c'est plus la même chose que c'était à 20. Mais on fait un effort conscient de faire vivre ça, puis de aussi de faire vivre l'histoire d'entreprise à travers tout ça. T'sais.
J'ai mon ami, mais qui était mon partner puis qui est maintenant mon mentor encore, Georges Saad, qui a fait Snipcard puis Spectrum.
Oui, exact, ben oui.
Ouais, lui a exit là, de Snipcard quand on l'a vendu à Duda, puis il est rendu en Suisse. Puis en tout cas, dans une de ses tracks de... Il faisait des différentes conférences, tu sais. Puis il y en a une qui avait fait que j'avais adoré, que c'était genre bâtir des entreprises indestructibles qui sont juste là pour croître en fonction du marché, en fonction des carrières, puis juste... Il n'y a pas de end goal. C'est genre un jeu infini un peu.
Ouais.
Puis écoute, je veux pas projeter ça sur vous, mais j'ai beaucoup de ce sentiment-là qui apparaît quand je t'écoute parler. Je suis comme, ouais.
C'est crissement bon parce que c'est exactement ça qu'on joue, le Infinite Game. J'en parlais hier avec un des membres de notre board. Puis c'est un marathon. C'est pas un sprint. On n'a pas d'exit stratégie chez nous. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on dit à tel prix, c'est la fin. T'sais.
Ouais.
C'est Infinite Game, c'est un marathon concours. C'est le, on donnait l'image dans le passé de la licorne. Maintenant, il y a l'image du centaure qui existe.
Du centaure, c'est bon.
Le
ça.
Centaure, le zèbre que tu m'entends.
Le zèbre, je l'ai vu.
Tu sais, d'avoir une business.
Le centaure, c'est un petit peu plus geek.
Ouais. L'image du centaure, où est-ce que. Ce qui est intéressant, c'est que le côté. On revient à Ambitious de tantôt.
Ouais.
Tu sais, une licorne.
Mais silly un petit peu aussi, non? Je sais pas. C'est genre un peu foufou, là, tu sais, un centaure.
Ouais.
Tu prends-tu ça au sérieux, vraiment?
Un centaure, c'est ça, exact. Mais il y a cet aspect-là aussi de tame et down un peu tout ça, tu sais, de dire, OK, c'est bien beau, là, valoir là, 1 milliard, mais à quel prix à un moment donné aussi, tu sais?
Ouais.
Parce que tu peux monter des business à 100 millions de revenus, est-ce, puis tu vas finir par l'avoir, ta valuation à 1 milliard, mais tu sais, ça dépend ce que tu veux faire, tu sais. Ça dépend ce que tu veux faire. Fait qu'on a l'image du centaure chez nous pour.
Puis tu sais, man, clairement, tu l'es tout transparent. Je le vois dans comment tu partages tes trucs avec moi, mais sur les autres pods aussi. Puis il y a quelque chose qui m'a comme fait... J'ai pris un 2 minutes quand je faisais ma prep, puis j'ai vu que vous avez publié publiquement, genre, votre roadmap 2024.
Ouais.
Voici ce qu'on fait, puis sur quoi on va se concentrer.
Ouais.
On dirait que l'espèce de ex-product manager en moi, il y a comme eu un genre de choc de ça va genre inviter beaucoup de critiques, beaucoup de bruit, beaucoup de gestion d'attente, puis tout ça, si on se fourre en Q1, Q2, blablabla. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, fuck it, je vais juste demander à Max, c'est quoi la rationale derrière ça? Là?
C'est d'aller chercher le plus vite possible du feedback du marché, voir qu'est-ce qui va résonner le plus le plus vite. Des features très précis, qu'on reçoit des comments ou des inquiries des gens suite à ces blogs-là qu'on poste. Fait qu'on est capable de mettre une valeur, une business value derrière le roadmap encore plus, d'une façon plus précise, de par le feedback qu'on reçoit des clients.
OK.
Fait qu'il y a un aspect, de transparence là-dedans, gestion des attentes aussi, puis un aspect de business de dire, bien, pitchons notre roadmap, puis voyons voir ce qui revient de là avant même qu'on commence à développer quoi que ce soit. Comme ça, ça va nous permettre d'éviter des erreurs, d'être en mesure d'aller sur le marché avec une solution qui reflète plus la réalité des users, par exemple. Puis ça nous permet d'identifier là-dedans différents champions qu'on peut venir poker pour un bêta, par exemple, pour d'être ouais. en mesure de.
Je pense aussi que ça te force, ça met une contrainte artificielle à genre, ben check, la vision produit pour cette année, faut la définir ouais. parce qu'on va communiquer publiquement, puis c'est ouais. mieux d'être sharp que d'être genre loose.
Exact.
OK. Puis ça vous est arrivé de publier ça publiquement, oui. puis de faire un changement oui. après, genre de rollback
ah, oui,
un peu des.
Oui. Okay. Ah oui, absolument. Oui, okay. absolument. L'idée tu sais, les release notes, les roadmaps, name it, tu sais, les what's new,
change log,
tu sais, grosso modo, là, ce que tu veux voir quand tu regardes pour un nouveau produit, une nouvelle plateforme, tu vas pas aller dig down dans tout ce qui a été fait, right? Tu veux juste voir qu'il y a de l'activité.
Oui, exact, tu veux voir c'est un sanity check. Ou
exact.
Un,
tu veux voir que, un, la business est à l'écoute, il y a une communauté derrière, il y a des gens, des vrais humains qui interagissent là-dedans. C'est mis à jour, au niveau de la sécurité, ils sont sharp, ils ont mis leur CVE à jour. Tout, tu veux voir finalement une maturité d'entreprise derrière pour faire comme, OK, eux ont de la sharp, après ça, on va te dig down un peu plus dans le produit. Okay. Fait que si tu vois un outil, tu fais, hey, cet outil-là est sharp, dernière update, juillet 2022. Tu fais, hey, tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé là?
Surtout quand c'est des utilisateurs tech. Là.
Exact.
Tech sa vie. Là, comme
c'est ça. Fait que tu veux montrer finalement que tu es actif, tu es proactif, j'aurais dire, puis tu veux montrer que ça bouge, qu'il y a une communauté, qu'il y a quoi qui se passe dans ta business finalement. T'sais.
Puis, tu sais, je t'ai parlé un peu d'un préjugé que certains peuvent avoir, puis même que moi, j'ai probablement eu dans ma vie par rapport à, bon, l'industrie des TI puis de la sécurité en TI, genre...
Ouais.
Tu sais, genre lourd, ou genre je comprends ouais. pas, ou genre ça m'intéresse moins, ou... Tu sais, c'est ouais. pas genre l'affaire la plus sexy, en guillemets. Par contre, force est d'admettre que Chris, toutes les fonctions critiques de business roulent sur du logiciel, avec du code, souvent sur Internet... Il y a un business case pour cette industrie-là énorme, genre comme la croissance de votre compagnie prouve. Mais qu'est-ce qui évolue? T'sais, j'ai lu que tu me parles un peu du changement de cette industrie-là. Y a-t-il des choses que quand tu as commencé, c'est différent? Ou juste je veux un pouls un peu de...
Ouais, je vais te dire, ce qui est la grande, grande différence, là, tu me poses la question, ce qui me vient right off the bat, là, c'est toute entreprise maintenant, aujourd'hui, sont un potentiel target pour se faire attaquer. Ouais, ce qui n'était pas vrai, le... Même 5-6 ans, tu sais, des trucs de ransomware avant le recording, tu parlais de ransomware puis tout ça. Tu sais, c'était des pains ou des challenges qui étaient réservés principalement à la grande entreprise.
C'est vrai, dude.
Les autres, on va dire, encore une fois, SMB mid-market, puis là, l'idée de business est là aussi derrière parce que nous, nos outils sont pour ces gens-là, parce qu'on entrevoyait que le marché irait vers ça un jour ou l'autre. Ben, ce qui a changé grandement, c'est qu'à cette heure, tout le monde peut être targeté. Même toi, même, tu sais, tu me dis, fallait que ça se passe, t'es réussite, félicitations encore, mais même ça se passe, tu sais, pourrait être le target, éventuellement, d'une attaque, tu sais.
Oh, man, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de... comment tu dis rançon logiciel en français? Comment tu dis ransomware?
Rançon logiciel, ouais. Ça a changé beaucoup, je te dirais, l'industry trend. Je parlais à Gartner de ce temps-ci, justement, la firme d'analyste, là, tu sais, puis c'est un des grands changements qu'il faut qu'ils abordent, puis on est là-dedans, nous autres.
Fait que juste la surface d'exposure au risque... Tout le monde est sur le web. Tout le monde a des... Ouais, okay,
tout le monde est sur le web. Tout le monde est là. J'ai un événement qu'on organise nous, à Saint-Hyacinthe. Puis ITSEC, 22-23 mai prochain. D'ailleurs, je vais faire une petite plug.
Okay, cool. Ça s'appelle ITSEC.
ITSEC. IT-SEC.ca.
OK. ITSEC.ca.
Ouais, IT Security, finalement.
C'est bon.
Fait que c'est un grand événement. 500 personnes en TI, en sécurité, qui se rejoignent là à Saint-Hyacinthe, au Centre des congrès. Je ne sais pas si tu es déjà allé, d'ailleurs.
OK, non, pas à Saint-Hyacinthe.
Super Centre des congrès là-bas. Bref, on se rejoint là-bas fin mai, 22-23 mai, avec une journée de formation le 21 mai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde maintenant... Pourquoi l'engouement aussi de ça, c'est que tout le monde cherche des solutions en ce moment. T'sais.
OK, c'est bon.
Puis l'idée derrière, c'est... En cybersécurité ou en sécurité informatique, c'est très difficile pour quelqu'un de tout connaître, tout savoir. Fait qu'il faut qu'il se fie à ce qui se fait de meilleur sur le marché, à des experts, des managed service providers, c'est-à-dire des gens qui offrent des services en sécurité. T'sais, il faut que tu arrives à t'entourer des best of the breed pour être en mesure de mettre des solutions. Parce que même si je te disais, OK, va mettre ça en place, t'sais, c'est tellement large et grand et deep que tu vas faire « OK, je fais quoi? Par où je commence? »
Fait que la communauté devient quand même une valeur ajoutée. Ouais, l'exposition fricotée un peu avec d'autres mondes qui en ont vu et qui en font.
Ouais, okay. ouais.
C'est cool, ça.
Faire vivre ça au Québec, c'est un des... Quand on a fait l'événement à ITSEC en pandémie, on revenait là, au printemps. on entrevoyait la fin de la pandémie, bref. Puis on disait, faut ramener le monde ensemble, faut le ramener le monde ensemble. Faut arriver à... On était tannés d'être à la maison.
Hey, dude, tell me about it. Là, derrière, ça se passe, il y a un petit peu de ça aussi, là, de jumeler avec des événements dans le monde réel. Ouais. Je trouve que ça, ça crée des liens aussi, des fois, qui sont un peu plus forts.
Ah oui, définitivement.
Puis, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que je fais moins de pods, comme je te disais, remote, parce que, je sais pas, man, j'aime ça connecter avec le monde en vraie vie aussi.
Fait que là, ça, c'est le grand changement, là, c'est que, tu sais, tout le monde peut être le target, puis les hackers aujourd'hui, si on va dans ce côté-là, ils cherchent beaucoup le volume. C'est-à-dire, tu sais, le premier ministre, notre premier ministre, François Legault, s'était fait hacker. Il avait eu accès, peu importe l'histoire, c'est... qui avait eu accès à ces données, permis de conduire, assurance maladie. Okay. Comment ça valait sur le dark web pour le prime minister, premier ministre du Québec?
Laisse-moi guesser. Puis là, le price en bitcoin ou en CAD?
En cash. CAD.
En CAD? 1 million.
35 piastres.
Hey gros, c'est sûr que c'est le clip.
Fait que ça valait 35$ avoir accès au papier du PM. Fait que ce que je veux dire, c'est ce qui a changé beaucoup, c'est le volume. Tu sais,
je comprends.
Ce qu'ils vont praiser ou ce qui vaut de l'argent, c'est pas parce que tu as le permis de conduire du premier ministre, c'est parce que t'as 2 millions de permis de conduire. Et puis là, ça commence à parler. Là, tu sais. Okay. Là, ça commence à être intéressant de vendre ça sur le black market. Tu sais.
Fait que ça commoditise un peu le scale de ces hacks.
Fait que tu sais, de dire, tu sais, tes données, là, tu sais, on a vécu plein de des jardinés. Ouais.
Not a sponsor.
Avant ça. Non, mais. Peu importe. Là, mais, tes données, je vais pas te faire peur, mais tes données, là. Il y a des Christy de bonnes chances qu'ils soient déjà out there. Tu sais.
Ouais. Je reçois des drôles de textos des fois. Qu'est-ce que tu veux?
Non, mais ça, qu'est-ce que tu fais les fins de semaine, c'est t'appartient.
Hey, 35$ versus 1 million.
Ouais,
là.
Ça valait rien.
J'adore ça. Fait que, mettons, segue plus dans ton rôle parce que, justement, ce que je trouve malade, c'est que tu gères, oui, le marketing, on a beaucoup parlé d'inbound, de SEO, tout ça, mais aussi les ventes. Right? Puis au début du pod, t'étais comme moi, j'ai quand même un profil marketeur et vendeur, storyteller qui allie un peu ces deux côtés-là.
Ouais.
Mais moi, j'ai vécu, soit directement ou indirectement, tu sais, des fois des tensions entre les ventes et le marketing.
Mm-hmm.
Ah, les leads qui nous envoient, ils sont pas bien qualifiés, ou genre, ouais, mais eux autres, ils ont pas le bon messaging ou la meilleure, ils closent pas assez. Mm-hmm. Y a-tu des frictions de même de ton bord?
Disons. Ben honnêtement, il y a eu les plus grandes frictions qu'on a connues, c'était entre les ventes. Nous autres, chez nous, les ventes ne sont pas à commission. Tu sais, notre compensation plan, c'est 100% salaire. Donc, il n'y a pas de bonus relié. Il y a un bonus relié à la performance globale de l'entreprise, à tous les employés, qui est plus un profit sharing ou un partage des bénéfices. Ce qui fait en sorte que ça enlève beaucoup de cet aspect-là. Mais il y avait un aspect chez nous, la plus grande friction, c'était vente puis support technique. Ou customer success vente, si tu veux. T'sais.
OK, ouais.
Parce que les ventes chez nous, there's so much they can do du côté technique, puis il faut qu'ils swap à un moment donné la compte au niveau customer success technique. Puis il y a un jeu à faire là. T'sais. Fait que ça a été les plus grandes frictions, c'était dans ces deux départements-là.
Comment la balle se passe?
Qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que lui dit pas?
Okay.
Ce que tu m'as envoyé, le client n'était pas rendu là vraiment dans le pipeline, c'était pas un call technique, c'était un call business qu'il avait à faire. Pourquoi tu me lances ça? Puis là, ce qu'on a fait depuis deux ans, depuis un an encore, on a tout rapatrié le Customer Journey dans la même équipe maintenant. C'est tout en dessous du CRO maintenant.
OK, ouais, Chief Revenue Officer.
Exact, Chief Revenue Officer. Fait que moi, je m'occupe marketing, vente, customer success, support technique, documentation, formation, équipe de renouvellement.
Ben, c'est toi le CRO.
Ouais, exact.
C'est bon, excuse, j'étais mêlé.
Fait que l'idée derrière, c'est pas pour être CRO. L'idée derrière, c'est pour réaligner le customer journey de façon standard, que tout le monde, que client, en bout de ligne, là, ce qui se passe dans le back-end, le client s'en crisse, il veut avoir une expérience uniforme à travers tout ton customer journey. Puis nous, la manière qu'on l'a fait, c'est avec un modèle, puis on l'a fait sur le podcast à Joe Pivot Podcast avec le RevOps puis le Bowtie Model, où est-ce qu'on a mis en place avec mon collègue Pierre-Alexandre Gaillette, qui est notre VP RevOps chez nous. On est venu mapper cette customer journey-là à travers un modèle qui s'appelle le Bowtie Model, là, ce qui est comme okay. un funnel de vente finalement, mais où est-ce que quand tu closes ta vente, il y a un nouveau funnel qui part en renouvellement puis en revenue Super. Expansion finalement.
C'est bon, ça fait que je vois le.
Fait, ouais, exact, tu comprends?
Ouais.
Fait que tu pars ton funnel marketing, vente, tu closes ta vente, puis après ça, tu t'expandes à.
Très cool.
Upsell, cross-sell, aller chercher le lifetime value de ton customer le plus longtemps possible, aller chercher le time to value. Fait on a tout mis ça en place depuis un an-ish.
Mais là, attends, je fais un pas de recul parce que c'est des concepts que je suis pas familier avec. Fait que Bowtie, clairement, c'est clair, crystal clear de la manière que tu me l'expliques. Mais RevOps, si tu avais à faire une définition pour le monde qui écoute, mettons.
RevOps, c'est un acronyme pour Revenue pour Operations.
OK.
Ouais, Revenue Operations. Donc, c'est tout ce qui a trait à optimiser le process de vente dans ton entreprise, finalement.
OK.
Fait qu'un des buts, objectifs, c'est de rallier au niveau opérationnel. Puis là, quand je dis opérationnel, c'est dans Salesforce, quand je clique sur le bouton « Transfer to support », qu'est-ce qui arrive en arrière, à qui je l'envoie. Fait qu'il gère tout l'ensemble des process de vente chez vous, de marketing jusqu'à
renouvellement, exit, exact, ou whatever. C'est, okay, c'est bon.
Fait que c'est une fonction qui est assez nouvelle dans les entreprises. Tu peux le voir d'une certaine façon. Il y a différents modèles organisationnels qui existent. C'est un département à part. C'est un département qui a des ops dans tous les départements. Parce que tu as des marketing ops, tu as des sales ops, tu as des customer success ops, tu as des support ops qui viennent gérer les opérations, mais ils ne gèrent pas le staff, ils ne gèrent pas le message, ils gèrent les opérations. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
Fait qu'il y a une partie qui est là-dedans, qui est une partie qui est très sales enablement, c'est-à-dire d'offrir à tes reps ou les gens qui sont customer facing tous les outils nécessaires pour qu'ils soient performants.
Là, il y a de l'overlap avec le product marketing, mettons.
Product marketing va être là pour créer le contenu.
OK.
Contrôler le messaging, créer le contenu, le positionnement. Sales enablement va être là pour s'assurer que les gens en vente connaissent que ce contenu-là existe. C'est quoi qui est up-to-date? C'est quoi qu'ils ont besoin pour certains clients, par exemple? Dans le domaine bancaire, ben, c'est pas nécessairement le même stack que dans le domaine, éducationnel aux États-Unis. Fait que enablement sont là pour vraiment outiller le plus possible tes équipes avec les bons... Sales Battle Cards,
les le bon collatéraux,
X, exemple. Sont là. RevOps est là aussi pour gérer toute la data, data analytics, data insights. Donc, chez nous, j'ai une équipe qui s'occupe de clearer toute la data, entre autres, mais aussi monter. On utilise Tableau pour nos outils de dashboarding. Fait que c'est eux qui gèrent toute la data lake, la data warehouse, les data mart, Tableau. Fait que c'est RevOps qui s'occupe en partenariat avec les équipes de FP&A au niveau finance pour gérer tout ce stack-là de data.
All right. On va unpacker une couple d'affaires. Là. Puis je m'étais pris une note que je ne voulais pas oublier de dire, mais pour l'audience, prenez la peine de regarder l'épisode 59 de Pivot, le petit podcast Pivot avec Jonathan Léveillé, parce que Max était sur cet épisode-là, puis vous parlez de KPIs. Puis je pense que pour le monde qui veut plus une base, là, puis comprendre les différents acronymes, ça va être bon d'aller voir ça. Puis dans cet épisode-là, justement, tu parlais... du fait que que vous étiez en train de faire un data lake puis essayer de centraliser un peu votre donnée. Puis cette activité-là, elle tombe sous justement la responsabilité RevOps de dire, Chris, les events qui se passent, les attributs qu'on atteint, il faut qu'ils soient là dans toutes les étapes du customer journey pour qu'on puisse prendre des décisions en fonction de ça. Fait qu'il y a une crise de job de data. Fait que ce qui m'amène à ma question, c'est, vous êtes rendu où avec ça? T'as-tu du monde à l'interne qui sont genre data science, data analyst ou à l'externe? Parle-moi un peu de ça.
J'ai des gens à l'interne. J'ai un data scientist ou un data analyst.
OK, cool.
Puis j'ai quelqu'un, Catherine, qui s'occupe plus de la portion business analyst en arrière de tout ça.
Okay.
Team leader dans l'équipe de RevOps, puis celle qui s'occupe des projets, entre autres, avec Ahmed, qui est notre data scientist.
OK.
Puis on travaille avec l'équipe de Mind in a Box à Montréal.
Comment ça s'appelle?
Mind in a Box.
OK. Nice.
Qui est une équipe, eux, c'est leur.
Leur data.
Ouais, c'est ce qu'ils font. En fait, mettre en place des data centers comme ça, on utilise Elasticsearch, OpenSearch pour tout ce qui est dashboard. En bref, il y a un stack derrière que je suis moins au courant, là, malheureusement. Mais on se fait accompagner de cette façon-là pour mettre en place toutes les bases du Data Lake, Data Mart, à travers les meilleures pratiques, évidemment. Mais j'ai du monde en staff, dans les équipes, qui travaillent à eux mettre en place tout le dashboarding qu'on a de besoin pour prendre des décisions d'affaires, finalement. Puis c'est, tu sais, en scalant, c'est une des grandes raisons pourquoi que les gens vont finir par stagner à un moment donné dans leur business. C'est que tu as beau avoir du data, mais il faut que tu sois capable de act on it. T'sais. Il faut que tu sois capable, puis les grandes business, ou quand ils traversent l'espèce de plafond de 40-50 millions, il faut que tu sois en mesure de regarder le data, comprendre ce que ça dit, puisque c'est pas vrai que le data dit la vérité non plus. En fait, rarement.
Ouais, d'où ça, je voulais t'en parler. Contexte, ouais. c'est bourré de billets aussi. Ouais. Man. Puis un de mes chums qui est rendu, qui était, je l'ai engagé comme BI, il est venu du Liban, il venait habiter au Canada, travailler sur Snip. Puis après ça, il est resté pendant la transition chez Duda. Puis là, à Starman, il est comme top, genre analyste là-bas, puis tout ça. Puis il s'est formé lui-même en data science. Mark Zalzal, je peux faire un shout-out. Puis il me montrait un projet sur le site sur lequel il travaillait, juste de data, tu sais. Puis il me disait, check, qu'est-ce que tu conclurais en lisant ça? Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, bah là, clairement, man, il faut qu'on mette nos ouais. efforts marketing, puis on mette du cash sur tel segment d'users, parce que genre, check le taux de conversion. Ouais. Puis il était comme, ouais, mais check-moi bien si je denoise toute la data qui se passe dans ce segment-là, puis je te montre une autre affaire, puis qu'après ça, je te montre le vrai revenu qui finit. Puis là, j'étais là, dude, calice, c'est tellement contre-intuitif pour moi.
Ouais.
Puis ça m'a fait rendre compte la quantité de décisions que j'ai dû prendre, tu sais, avec une vision peut-être imparfaite des chiffres que j'avais. Fait que, tu sais, comme tu vois, je suis noble là-dedans. Je suis vraiment pas un pro en BI ou en data analysis. Mais calisse que c'est important. Là. On dirait que plus que je grandis et je vieillis dans ma carrière, plus je suis comme, ouais, man, genre, plus tôt que tard, idéalement.
Ça donne pas. Le data devrait être là pour backer une décision d'affaires et prendre des décisions d'affaires, mais tu devrais toujours te poser la question. Est-ce que ce chiffre-là que je vois raconte toute l'histoire ou non? Ouais. Parce que c'est en fait très rarement le cas. Ou est-ce qu'un chiffre donné va dire...
Ouais.
Surtout dans notre système qu'on a monté chez nous, de dire, on donne un exemple, mais pourquoi tel segment de marché a sous-performé cette année? Je peux te trouver 56 000
tu raisons. Tu peux faire dire tout au chiffre, en plus, c'est ça.
En plus, tu sais. Mais fait, ouais. c'est apprendre... T'sais, je l'avais dit sur le podcast à Joe. Tu devrais en prendre suffisamment pour valider une décision puis te donner un point à suivre, tu sais.
Ouais.
Parce que juste du data, ça peut pas tout dire la vérité non plus. Puis faut faire attention à ça.
Mais ce que je trouve cool aussi, c'est quand tu as certains points concrets, des faits ou de la data, là, souvent, ça va couper à travers la bullshit de l'argumentation de team. Tu sais, des fois, là, quand tu t'argumentes une décision ou tu challenges une décision... Ouais. Il y a comme le bon highest paid person in the office, t'as genre la personne qui est là depuis longtemps, t'as l'autre personne qui parle plus fort que les autres, puis tout. C'est comme des fois, là, ça permet au moins de couper un peu de cette marbre psychologique-là pour dire check, le garde, on a peur dans ce cadre-là, là, tout le monde est d'accord.
Ouais.
C'est sûr que là, si le monde font, ben là, est-ce que ça compte toute l'histoire? Retourner à la planche à dessin pour sortir plus de data, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Puis que t'as un biais vers l'action, puis c'est ça que vous avez, tu me le disais plutôt dans le pod, tu disais, tu sais, man, il n'y a pas de décision parfaite, mais il faut que tu en prennes les décisions.
Mm-hmm.
Puis genre, même si tu t'es planté ou que ça a fait mal pendant, parfait, tu apprends une autre décision. Puis c'est à travers de la...
T'sais, l'armée américaine, là, puis tu feras bien ce que tu veux avec, là, mais...
Avec l'armée américaine, je ferai pas grand-chose.
Mais ils prennent... On voulait dire, qu'est-ce que je vais dire? Puis tu sais, c'est dur après ça, savoir ce qui est vrai, si c'est pas vrai. Mais grosso modo, puis ça fait du sens, fait que je vais dire que c'est vrai.
Disons.
Quand ils sont rendus à 70% de l'information... Ah, il act on it, tu comprends?
Exact.
C'est que quand je suis rendu à 70%, pas mal sûr que j'ai toute la donnée en main, là, je suis prêt à aller de l'avant. Aller chercher le 30, 40, 20% qui reste, là tu fais juste comme te mettre du bruit sur la ligne, à mon sens.
Puis tu augmentes le temps avant que tu ailles apprendre sur le marché puis que tu vois si t'es de bonne décision.
Exact. C'est pour ça que je...
Quoi que les autres prennent des décisions avec des bonnes conséquences.
Bon, c'est ça, je m'en ai... j'ai hésité avant d'ouvrir la porte.
70%?
C'est pas ce genre de podcast, là.
Non, 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 dude. Non.
Qu'est-ce que tu bois de l'eau froide le matin?
Ah, mon Dieu, je viens de comprendre la référence, dude.
C'est celle-là.
Hey, man, c'était bon. Ça a-tu été enregistré ici? Faudrait qu'on demande au monde après.
Tu gâches-tu ça a été enregistré ici?
Je sais pas, il y a toutes sortes de podcasts.
Il y a peut-être une vibe qui nous a...
All right. Fait que, grosso modo, vous avez investi consciemment dans la centralisation, l'instrumentation de votre data pour être capable de prendre plus de décisions. Ouais. T'as dit deux mots, puis je me permets de mentionner mon ignorance. T'as dit data lake, puis data mart.
Ouais, tu sais, c'est des termes un peu plus techniques, mais data lake, en gros, un data warehouse, c'est un grand entrepôt de data.
Oui, ça, je suis familier.
Ensuite, selon ton use case, de qui va consommer ce data-là. Fait que si c'est les gens de finance,
ben,
tu vas te créer un mart qui va relier, qui va faire tout, qui va prendre ton data dans ton data warehouse puis créer, on va dire, une espèce de rangée dans ton...
C'est bon, je te file.
Tu comprends? Dans le fond, c'est on voit ça comme une grosse entrepôt. Puis après ça, ben, tu viens segmenter ton data de façon structurée selon le use case que tu veux bien aller chercher. T'sais.
C'est bon. Cool, donc, merci pour la vulgarisation, man. Écoute, vous êtes à la Valtry, vous avez eu une croissance bootstrap au-dessus d'une décennie super belle, super saine. Vous avez eu un taux de roulement à 0% que tu disais l'année passée. Fait que, tu sais, j'aime toujours ça parler d'embauche en tech parce que c'est des pains que moi j'ai vécu et que beaucoup de mes collègues vivent. Comment ça se passe de façon générale? C'est-tu tough? Pas tough? C'est-tu long pour l'embauche chez Devolution?
Je te dirais que de ce temps-ci, c'est. Il y a de plus en plus de candidats de qualité. OK? Parce que. Tu les as vu passer, là, tu sais, l'économie est en scalée, il y a eu des layoffs, il y a eu des changements de carrière aussi, back to the office, tu sais, le mouvement, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent de ce temps-ci. Ouais. On a accès à des gens de très haute qualité chez nous, puis on a t'as deux envers de la médaille, OK? David Derrieux, notre founder, dirait, tu sais, on est à la Valtry, tu l'as dit, tu sais. Ouais. Fait qu'une compagnie de techno comme nous autres, 40 millions de chiffres d'affaires, 200 employés, moi, te le dis tout de suite, là, dans l'année d'hier, là, où ce qu'on vient, il y en a une, puis c'est nous autres, tu sais. Fait que si t'es dans le coin, puis si tu veux sortir de la ville, tu parlais tantôt qu'on évolue avec les gens, c'est peut-être rendu le temps, tu dis, bon, je vais fonder une famille, c'est peut-être le temps pour moi de quitter à Lille.
Je vais pas payer 1,6 million pour un 3,5.
Exact. Fait que. On suit ce macro-sociétal mouvement-là aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'installent ou qui sont allés d'aller à Montréal. Fait que, étant donné, grosso modo, étant donné qu'on est un gros joueur parmi peu d'autres joueurs, comparativement ici à côté, à Griffintown, par exemple, il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, là, évidemment. Ouais. Nous, on a cet avantage-là. T'sais.
C'est fou parce que c'est, mettons, 45 minutes de char. Ouais. Ça crée un contexte d'emploi, d'employeur complètement différent.
Complètement différent. Fait que tu viens de le nommer. Tu peux t'installer chez nous en région pour une fraction du prix que tu vas avoir en ville. Style,
avec des bons salaires.
Ça n'a jamais été une barrière chez nous au niveau salaire. Là. On ne s'est jamais dit on va team. On n'est pas dans le OK à Montréal.
Géographique.
Non.
Non, parce qu'il y en a plusieurs qui le font. C'est un débat que je ne sais jamais de quel bord aller. Mais. Laissons ça de côté deux secondes. T'as-tu, mettons, en mitraille ou en rafale, des green flags, fait que des drapeaux verts puis des drapeaux rouges pour un profil marketeur puis un profil vendeur?
Tu dirais que...
Mettons que t'es en embauche.
Dans un ou l'autre, là, OK, je ferais pas de distinction tant dans la façon que j'embauche.
Parfait.
On s'est doté, nous, d'un genre de DNA comme dans le customer journey. Qu'est-ce qu'on cherche chez quelqu'un d'abord et avant tout, tu sais?
Ouais.
Puis... Moi, des red flags, quelqu'un qui est... ça prend des gens qui sont self-aware, tu sais, qui savent c'est quoi leurs compétences, mais c'est quoi aussi ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire en termes de maturité, de professionnalisme. Ça prend des gens, pour moi, je check tout le temps l'ouverture d'esprit des gens. Je vais poser des questions, tu sais, c'est quoi que tu fais les fins de semaine? Pas pour savoir, mais raconte-moi une passion que tu fais, tu sais. Puis je regarde après ça, je regarde la personne, tu sais. Est-ce qu'il est capable de vulgariser un sujet qu'il connaît très, très bien? De synthétiser son idée, comme de me partager un peu sa passion en dedans de 5 minutes. Puis pourquoi un sujet, qu'est-ce qui te passionne? Parce qu'ils connaissent habituellement leur sujet, fait qu'ils peuvent en parler.
Pour des profils, justement, vendeurs,
marketeurs. Support technique même. Tu sais, des gens, on veut des gens qui ont cette intelligence émotionnelle-là, si tu veux, ou cette espèce d'ouverture d'esprit-là. Ça, c'est un gros green flag chez nous, de dire, tu sais, c'est des gens qui veulent, tu sais, puis on a fait... Hey, j'ai engagé des infirmières chez nous, j'ai engagé des biologistes, j'ai engagé des...
Mais qui ont fait un changement de carrière.
Complètement. Ouais. On mise d'abord et avant tout sur le mindset de la personne. Fait que tu sais, Catherine, pour ne pas la nommer, Mathieu aux ventes, directeur des ventes chez nous, ce qu'on aime de ces gens-là, c'est qu'il y a un qui a fait un bac en microbiologie, Catherine aussi dans le même domaine, là, au niveau de la santé. Ils ont des approches très scientifiques, cartésiennes de ce qu'ils voient, tu comprends? Fait que c'est des gens qui ont des skills qui sont très reliés à une science puis peuvent ramener ça après ça dans nos process chez nous. Les compétences après de vendre tout ça, là, ça se développe après. T'sais.
Okay.
Fait que c'est toujours relié à la personne. Fait que des red flags, en contrepartie des red flags, ben, tu sais, des gens qui n'ont pas cette espèce de self-awareness-là, si tu veux, que tu sens qu'ils ont une espèce de on parlait d'ambitious tantôt, là, de l'ambition sans trop d'humilité là-dedans, des trop gros égos, puis en vente, tu vas en croiser quand même une coupe. Fait que c'est là que, oups, là, on regarde un peu plus attentivement le profil, si tu veux. Okay. Fait que,
Moi, avec Snipcart, ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai volé à Georges de Spectrum. Il y a une question en entrevue qu'il posait tout le temps, c'est « All right, mettons là, qu'on a une machine à voyager dans le temps, puis qu'on land, on atterrit 5 ou 10 ans dans le futur. Tu te réveilles, puis tu vis la journée idéale au travail puis personnel. Ça ressemble à quoi? Raconte-moi cette journée-là. Puis au niveau, ça, j'ai été surpris de voir à quel point il y a du monde qui n'ont pas soit d'imagination ou qui n'ont juste pas pensé ou qui font juste répondre, mettons, quelque chose pour te dire, ben, tu sais, je viendrai dans un bureau comme le vôtre puis je ferai des tâches comme il y a sur l'offre. Non, man. OK, laisse faire la job. T'es où dans le monde, genre? OK, tu fais-tu du sport? T'es avec qui, genre? Tu manges quoi, genre? Tu te lèves à quelle heure? Tu te couches à quelle heure? Tu sais, puis cette capacité-là à raconter une histoire, comme tu dis, pour des profils marketing vente, man, cette question-là, elle explose ça direct, là, genre. Fait,
Ah, c'est bon. Tu dirais-tu que c'est des gens aussi... j'aime les gens qui sont très well-rounded, on va dire. Ou tu sais, c'est des gens qui ont un skill set très large. Puis je me rends compte, au fil du temps, que j'aime les gens aussi qui ont beaucoup de culture générale. Tu sais, en marketing, en vente, là. Tu sais, d'avoir une culture générale, là. Juste connaître ce qui se passe en vente. Là. Quand tu arrives à parler avec un gars en Ukraine, ben, je dis en Ukraine, ça me vient en tête, mais en Allemagne, par exemple, tu sais. On a 20% de notre marché en Allemagne, nous autres. On fait affaire beaucoup avec des Allemands, des Néerlandais, région de toute le Benelux, cette région-là. Tu sais, quand tu parles avec eux autres, puis que tu sais présentement que le prix d'énergie en Allemagne est off the roof, par exemple, tu sais, ben, c'est intéressant de parler de ça avec quelqu'un là-bas, de dire, hey, comment ça se passe, vous autres, tu sais? Le prix d'énergie, vous dealez ça comment dans votre business? Tu sais, en vente, si tu le sais, là, Christophe, lien-là avec les personnes. Puis après ça, tu sais, ils vont te faire confiance. Mais si tu le sais pas, qu'est-ce qui se passe, là? Comment tu veux faire ça, tu sais?
Moi, j'ai une curiosité générale d'autre, mais j'ai pas tant de connaissances générales, genre. J'écoute pas une nouvelle, puis des fois, ma blonde, ça la fait capoter. Là. La quantité de choses que je suis pas au courant qui se passe, man. Parce qu'on dirait d'autres que, genre, c'est un net négatif pour moi, man, de consommer les nouvelles.
Ben, je te dirais que les nouvelles...
Même Twitter, genre, même, tu sais, on dirait que j'ai comme une... J'ai une croyance qui est, s'il y a un événement là, d'actualité là, qui est assez important pour avoir mon attention, là, ben, il y a genre probablement 3 personnes proches de moi qui vont en parler éventuellement. Fait que j'outsource un peu. Puis pour ce qui est de mon industrie, soit je réserve des moments pour comme creuser, lire ou genre avoir. Mais j'apprends beaucoup par les discussions d'autres. Puis c'est une des raisons pourquoi je fais le pod. Que c'est genre, tu sais, souvent je vais réécouter les podcasts que j'ai fait avec des guests quand j'ai du temps parce que ton écoute est pas pareil. Là, tu comprends? Comme là, tu sais, mettons, je pense à tout ce que tu dis. Je m'assure genre que je réponds aux bonnes affaires, mais je pense aussi à ce qui va se passer dans les prochaines questions. Je suis pas à 100% d'absorption du knowledge que toi t'amènes, tu sais. Fait que apprendre par des discussions, pour moi, c'est genre... Clairement. C'est vraiment motivant, genre... Anyway, je sais pas... on parlait d'embauche.
Mais non, mais je te ferai un petit topo sur l'actualité après.
Ben, Frank, notre premier ministre sur le dark web, il vaut 35$. on s'en va sur le closing, mais le côté Gen AI, Generative AI, fait que les, tout ce qui a été buildé par-dessus OpenAI, puis tout ça, ça a-tu changé quoi que ce soit dans ton quotidien? Game changer. OK, dis-moi, version courte,
on s'est pris une licence entreprise chez OpenAI. ChatGPT, right? On a une licence entreprise qui nous permet de créer des GPT, des assistants. Donc, la différence, un GPT, c'est que c'est un bot que tu te crées. Tu lui donnes le contexte, puis un coup qu'il y a ce contexte-là, il le garde en mémoire, puis tu te crées vraiment un bot qui t'aide. Fait qu'on a des bots en support technique, en vente, en marketing, en messaging, en...
Vous avez fait des custom GPTs un peu par fonction.
Des custom GPT par fonction, selon... Cool. Puis nous, avec le... Puis tu sais, je suis pas trop au fait des subscriptions là-dedans, mais nous, on peut feeder notre propre contenu à la machine. On peut lui dire, base-toi sur telle chose, va sur tel site. Là, les PDF, le list price, tu sais, on feed la machine. Puis ce qui est intéressant avec le GPT, c'est que t'as pas à refaire la mécanique tout le temps, right?
Exactement.
Moi, je l'appelle mon CRO cowboy chez nous, là. Tu sais, moi, c'est mon un assistant exécutif virtuel, puis je pense des idées avec, tu sais. Hey, toi, tu ferais quoi dans telle situation, tu sais? Telle affaire, qu'est-ce que t'en penses de ça, tu sais?
Il te donne-tu des idées de merde, des fois?
Ben oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est un outil qui est là pour t'aider à faire ton travail de façon plus efficace et plus efficiente.
Ouais.
Ça viendra pas te remplacer comme être humain, parce que... Mais quelqu'un qui l'utilise, par contre, peut-être, tu sais.
Puis, OK, laisse-moi pousser un peu. Est-ce qu'au niveau... content, vous l'avez utilisé dans vos workflows?
Ouais. Il est là.
Parce que moi, on commence à faire des tests. On a une petite agence de croissance de SaaS qui s'appelle Grip avec Ludovic, mon partner. Puis c'est pour. Tu sais, on commence à faire des tests avec genre faciliter certaines étapes, mettons, du content. mettons qu'on n'a pas fonctionné tout. Puis que...
Ben, nous autres, tu vois, en traduction, on m'a donné en traduction, là. Ouais. Number one, traduction avec notre bot de traduction. Toute notre documentation technique, tout est traduit à travers ce bot-là maintenant. Sinon, en brainstorming d'idées, par exemple, on va aller se bander des idées, on va aller. Tu retravailles-moi un peu cette idée-là, ce texte-là, par exemple, ça fonctionne bien. Sinon, on a des assistants aussi, où est-ce que là, on peut le connecter directement avec des API qui existent. Ouais. Salesforce, par exemple, Confluence, Atlassian, Jira, ouais. Qui va nous donner un autre spectre. Là, on peut aller bien plus deep dans le data encore, parce que là, il est connecté directement sur tes API. Fait que tu peux lui poser des questions très, très précises sur des use cases chez vous. On arrive, là, on a un projet qui s'en vient justement pour nos clients dans Slack. On utilise Slack vraiment beaucoup, là.
Il y a beaucoup de knowledge, d'utilisation, optimisation des connaissances, j'ai l'impression, dans ce que tu dis pour votre utilisation en Gen AI.
Ouais, puis il y a beaucoup de... Tu sais, j'étais en offside la semaine passée, puis tu sais, on peut s'asseoir, moi, puis tout, là, puis tu sais, définir la value prop de tel produit dans telle persona, par exemple, tu sais. Puis là, t'as-tu pensé à ça? Ouais, ça, ouais, puis là, on va aller un peu de doc, tu sais, puis OK, no collaterals, on regarde ça, cette web, OK, ouais, mets ça, puis tu sais... On revisite un peu. Mm. Tu sais, j'ai ouvert le laptop, j'ai dit, check, on va demander à ChatGPT, à notre bot, voir qu'est-ce qu'il en pense. Ouais. Ta-ta-ta-ta, c'est une sortie 12 bullet points. Lui, il est pas bon. Tu sais, c'est ça, là. C'est comme le data de tantôt. Là. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Oh, ça, c'est vrai. Rajoute-moi celle-là. Ouais. Ça, c'est vrai. Ta-ta-ta. On a fini, là, dans 20 minutes, qui aurait pris 2 heures. Là, c'était là. Tard. Puis, on n'aurait pas pu faire mieux. Ben, honnêtement, là, j'aurais pas pu faire mieux que ça. Parce que. Il se bat. L'affaire, par contre, c'est faut-tu le fil du bon data.
Exactement,
la doc en arrière, la 7-toi, il faut qu'il soit à jour. Ta doc, si tout doit être à jour, sinon, c'est sûr que ça marche pas. Là, okay. Mais c'est un outil efficace pour agréger du data et du knowledge rapidement. Ouais.
Qu'est-ce qui est le plus tough et le plus fun en ce moment dans ton rôle?
Hey, c'est une super question. Le plus. Tu veux que je commence par lequel? Le plus tough ou le plus fun? Comme je
choisis ton aventure.
Le plus tough présentement, c'est d'être en mesure de mettre en place 5, 6, 7 équipes, OK? Puis de les faire tout le monde travailler sous un même, on va dire, pas une même vision, mais dans les mêmes paradigmes ou les mêmes paramètres, si tu veux, tu sais.
L'alignement.
L'alignement, mais au niveau des process, au niveau du leadership, au niveau du management, parce que, tu sais, si, par exemple, tu as quelqu'un dans un département qui est très, très, très process heavy, Monday heavy, puis tu as des gens de l'autre bord qui sont plus brainstorm, meeting,
cowboy.
Plus cowboy, OK, on le règle ou on le fait, on documente pas trop, l'autre bord, ils ont tout documenté, mais des fois, c'est un peu plus long, mais en bout de ligne, ça bien documenté, c'est ça, là. Pis ça, c'est pas qui a tort, qui a raison, c'est de trouver la fine balance pour que... on atteint nos objectifs d'affaires. Je reviens toujours à nos business requirements. Ouais. C'est pas parce que c'est toi qui es VP puis moi qui est CRO qu'on a raison tard chacun. C'est quoi que le business... C'est quoi qu'on a besoin de faire pour que le business fonctionne de la façon la plus optimale possible. C'est là-dessus qu'on se base avec ça pour prendre nos décisions, si tu veux. T'sais.
Fait que plus t'es gros,
plus t'es gros,
plus t'as des équipes,
ouais.
C'est un challenge.
Ça, c'est sûr que c'est un challenge au niveau management. Puis au niveau leadership, c'est... d'être en mesure d'être prédictible dans tes décisions d'affaires, toi-même comme personne. Puis après ça, les gens, ils peuvent partir de leur côté puis prendre ces décisions-là sans toujours venir te voir pour dire « qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses? » Mm-hmm. Quand tu dis toujours la même, quand ton axe est tout le temps aligné, mm-hmm. tu peux très bien retourner à la question de « tout en penses quoi? » « Ah, ben moi, je ferais ça. » Ben, c'est sûr, c'est ça. Mm-hmm. Fait que le challenge, c'est d'être en mesure de le faire d'une manière très disciplinée pour que les gens... dans tous les départements, peu importe si tu es un team leader, un directeur, un VP, soyez en mesure de suivre ça. T'sais. Le fun maintenant là-dedans, t'sais, c'est que tu arrives à un moment donné à ce niveau-là, dans mon rôle à moi, t'sais, c'est très stratégique. Ouais. C'est que là tu arrives à avoir, tu as ton stack, tu as du monde, tu peux aligner ça, tu peux aspirer à des grandes choses, puis ça va vite, puis ça bouge bien. Puis il y a des journées que j'arrive à la maison, je suis ultra énergisé, tu sais, mais là, on est comme, qu'est-ce que ça va se passer aujourd'hui? Je dis, aujourd'hui, là, toutes les calls ont tombé pile. Les gens ont tous répondu. Tu sais, des fois, là, tu sais, c'est comme une équipe de hockey.
Comme quand t'as des feux verts, c'est toute la route. Là.
Exact. Ouais. On dirait que tout fit. Tard, puis là, ah, j'ai parlé à l'autre, j'ai parlé... Puis ça, c'est quand ça arrive, c'est comme magique. Là, ça, c'est le fun. Là. Ça, c'est trippant. Là. Parce que là, tu fais... Ce que moi, j'aurais pu faire, si j'avais été voir tout le monde, tu comprends?
Ouais.
Un après l'autre, pour dire, hey, faites... Là, whoop! Tout d'un coup, l'écosystème le fait. sans que tu aies besoin de rien faire pratiquement, à part de dire, hey, on va vers là. Puis là, le reste, la magie s'installe. T'sais.
Beaucoup des ressources à déployer, puis ça multiplie l'impact de tes décisions aussi. Genre.
C'est ça, définitivement. Puis ça l'implique aussi des fois qu'il y a des accrochages, right? Tu sais, les gens, des fois, sont pas d'accord les uns avec les autres. Des fois, tu sais, Larry Page et Google disaient, tu sais, ils se faisaient poser la question, ça fait quoi gérer dans ce temps-là 60 000 employés? Il dit, je gère jamais 60 000 employés. Il dit, je gère 5 employés, tu sais.
Ouais, exactement.
Puis elle disait, ouais, mais d'abord, tu fais quoi de tes journées, tu sais? Il dit, ben moi, je trace la ligne tout le temps, tu sais. Okay. C'est-à-dire que je peux avoir mon CFO, mon COO, mon gars de produit qui est là, mon head of security, peu importe, le name it. Puis là, ça se tient tout d'un l'autre. Moi, j'en prends ça, moi, je veux ça, puis ça. Il dit, moi, ma job, c'est juste de tracer la ligne à un moment donné, dire, c'est ça qui est ça, guys.
OK.
Send of the story. Je passe mes journées à faire ça, finalement, tu sais. Et d'autres choses, évidemment. Mais...
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team?
Nous autres, honnêtement, là, le fait qu'on soit à la Valtrie, entre autres, on est comme en dehors un peu du grand centre. Québec, Montréal, des grands centres, j'aimerais dire. Ouais. Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, mettons, limite, Trois-Rivières, si tu veux le mettre. Mais ce que je trouverais intéressant, c'est de... être en mesure d'accéder à une communauté à travers ça espace puis de pouvoir se parler. On parlait de forum tantôt. Mm-hmm. Ça pourrait être un Slack, ça pourrait être...
Une communauté en ligne.
Okay. Qu'on puisse poker puis dire, « Hey, avez-vous déjà vécu ce challenge-là? »
Okay.
Puis quelqu'un fasse comme, « Ouais, moi, j'avais l'affaire, on se rencontre-tu, on s'appelle-tu? » Mettre en lien les professionnels dans le monde du SaaS comme ça ensemble, là, ça serait pour nous autres super winner. On le fait déjà avec d'autres plateformes, là, Pavilion, que je te parlais tantôt, hein? Là. Qui est très nord-américain, canadien, mais d'avoir de quoi de notre réalité au Québec. Ça, c'est notre affaire, tu sais.
Ouais, je sais.
Notre réalité au Québec, c'est pas la même ailleurs dans le monde, tu sais. Fait que des fois, on se dit, tu sais, à tort ou à raison, mais 40% de your growth, t'es comme genre, Chris, c'est bon, tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai des compétiteurs qui ont fait peut-être du 155% l'année passée, ouais, tu sais.
Ça revient au benchmarking puis, aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré ça.
Ouais.
Trouve-moi la data sur toutes les SaaS au Québec, puis genre benchmark-moi les.
Oui,
je puisse me benchmarker ouais. aussi, ouais. mettons, au niveau des salaires, peut-être, ouais. au niveau de la ouais. croissance, comme tu dis.
Ouais.
Mais pour la communauté en ligne, je le prends à 100%, là, c'est sur ouais. la roadmap.
Ouais.
Là, on en a beaucoup sur notre plate, puis j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on ait quelque chose, mais je veux le faire bien, man, si je peux le faire. Parce que c'est quand même énergivore, une communauté, là, tu peux ouais. pas juste comme ouvrir ça, puis genre, tant que tu le sais, vous en avez une grosse communauté.
On utilise d'ailleurs. Influitive, là, ils ont été vendus, mais à Toronto, Influitive, comité d'ambassadeur, du gamification okay. d'ambassadeur.
Ah, ouais, okay.
Fait que ça fait 7-8 ans, mais c'est de la discipline. Day in, day out, t'as toujours feedé des challenges là-dedans. T'sais, l'équipe de Comme chez nous fait un énorme travail, mais t'as raison. Faire vivre une communauté de même, c'est énorme. Hein.
T'as-tu des shameless plugs pour finir?
J'en ai parlé rapidement tantôt. J'inviterai les gens, là, si les gens devenaient partenaires à l'événement ou venir comme attendee chez nous, ITSEC, it-sec.ca, ITSEC.ca. À Saint-Hyacinthe, 21, 22, 23 mai prochain, 500 professionnels en TI prennent la décision en technologie du Québec de toutes sortes de business d'industrie.
Nice.
On le fait en partenariat avec SureWeb et Groupe ISM.
OK, cool.
On a eu 3 partenaires là-dedans pour mettre en place l'événement. C'est notre 3e édition cette année. On attend 500 personnes. Mm. Il reste de la place là, pour des partenaires exhibiteurs. Comme des places pour des talks. Il y a de la place pour venir showcaser votre expertise. Ouais.
Êtes-vous en embauche aussi?
Oui, on est en embauche.
Fait que, on peut mettre le lien peut-être.
Oui, mettre le lien jobs@devolution.net si ça vous intéresse d'offrir une candidature spontanée.
Okay.
On a une page carrière sinon qui est là aussi. On a la page carrière qui est très bien faite d'ailleurs. Écoute, au niveau des embauches, je vous invite à aller consulter des offres à toutes les semaines. On a engagé 50 personnes l'année passée. J'étais bien surpris de voir ça.
C'est beau à voir, allez, man.
On lâche pas.
C'était le fun en crise, mon gars.
Pas. Man, merci de l'invitation, merci. Mon gars. Tu viendras faire un tour le prochain. On se prend un recap dans un an dans notre studio chez Devolution.
On fait ça.
C'est bon. Cheers. Rendez-vous.